on est un petit peu serré. La dimension maximale, on porte pousser les murs, et je suis très heureux que ce soit cette salle, que ce soit justement qu'on ait rempli cette salle et que vous soyez aussi nombreux à être venus. Alors deux petites annonces d'abord. D'abord, je vous rappelle que autant que possible, pour ceux qui ne l'avaient pas fait, il faut autant que possible répondre à l'avance. Parce que c'est difficile à programmer quand pas mal de gens s'inscrivent, viennent à la dernière minute. Nous les accueillons, je les accueille, aucun problème là-dessus. Ceci dit, effectivement, ça fait qu'on est un petit peu serré, on a des problèmes d'agencement de cette salle. Mais on trouvera les moyens, progressivement, on progressera dans l'arrangement de la salle. La seconde chose, c'est qu'il a été suggéré que les finances, c'est toujours un point délicat, surtout pour une association comme la nôtre. Alors, comme nous ne sommes pas encore une église, mais il y aura quand même une petite quête, si c'est permis, de vous demander un minimum de 5 euros et vous déposer ce que vous trouvez, ce que vous désirez déposer dans la corbeille. On n'a pas de corbeille. Et en vous remerciant d'avance.
C'est bien, vu que t'es le prix avant qu'on entende la batteur. Un euro de faire payer.
Un grand merci à Marc de Sidivo, que la plupart d'entre vous connaissent déjà depuis très longtemps, et dont je dois dire que je remercie de vous avoir amené tous ici ce soir. Je ne vais pas faire davantage de présentation, parce que la question essentielle, où est-ce qu'on en est? Marc, où est-ce qu'on en est? Parce que les nouvelles depuis quelques jours, cette dernière semaine, étaient plutôt inquiétantes. Et j'espère que tu vas nous permettre d'espérer au moins.
Alors, en fait, je n'avais pas prévu de vous dire ce qu'on est aujourd'hui, mais je n'ai aucun problème, vu que c'est ce que je fais toute la journée. Donc là, parce que vu l'assistance et vu ce qu'il y avait, j'avais prévu quelque chose de différent. Mais enfin, ne l'inquiétez pas, c'est l'historique de la crise. S'arrêter quasiment aujourd'hui, mais je ne suis pas d'accord pour faire des décisions. Et ensuite, dire ce qu'un économiste libéral, ce que cette crise peut lui avoir apporté comme question, et en tout cas les constatations qu'il a faites sur la fameuse question, le marché fonctionne-t-il bien ou non? Les constatations, ma réponse est non, mais nous verrons pourquoi. Sa réponse est non, parce qu'il y a en effet des éléments qui ont été perturbateurs. La première partie de ma présentation, et à mon avis les deux tiers, ne poseront dans cette salle aucun espèce de problème d'ordre philosophique, puisque je vais dire ce que vous savez tous, mais ce que l'immense partie de nos concitoyens ignore, c'est que nous sommes absolument, mais je vais le démontrer, non pas par la théorie, mais par les faits, nous sommes absolument au cœur d'une crise de la réglementation. Mais après cela, malheureusement, il reste quand même, dans le développement de cette crise, quelques interrogations, dont entre autres, la plus importante de toutes à mon avis, c'est pourquoi les marchés n'ont pas été sensibles à une information qu'ils pouvaient avoir, et qui n'ont pas voulu entendre, et c'est sans doute ça la question qui, pour nous, est la plus interrogative, et je vais essayer de donner des éléments de réponse. Alors, premièrement, c'est très important cette phrase, je l'ai pompée, non pas dans Proust directement, mais sur un livre que peut-être un certain nombre d'entre vous ont lu, qui était le livre de Kervaldoué, qui était sur les... celui qui était très bien, les trucs de l'Apocalypse.
Ouais.
Les prêcheurs de l'Apocalypse, dans lequel il montrait qu'on n'entendait que des conneries, qu'on disait que des conneries, et c'est exactement le même fait que, évidemment, j'ai eu dans le domaine qui était l'économie, et j'ai trouvé que cette phrase de Proust était très bonne. Mais il faut d'ailleurs que nous-mêmes, on y pense, parce que s'il y a des moments, des faits, qui ont l'air d'aller à l'inverse de ce qu'on croit, il faut les analyser jusqu'au moment où on se dit, est-ce que nos croyances sont bonnes, ou est-ce que les faits et les trucs. Mais ne vous inquiétez pas, ma thèse ne sera pas qu'elle est détruite. Bien. On va donc aller sur les faits. Les faits, c'est que cette crise est ce que Bernanke avait appelé il y a quelques années un excès d'épargne. Alors, ce n'est pas qu'il y a un excès d'épargne, parce qu'en général, il n'y a jamais d'excès d'épargne, mais un excès d'épargne qui s'est déversé pour des raisons que nous verrons dans des produits de taux. Pour des raisons que nous verrons qui sont toutes liées à des problèmes de réglementation. Cet excès d'épargne a abouti à une baisse anormale des taux longs, ce que Greenspan avait appelé en 2005 le conundrum. Nous verrons ce que ça veut dire. Le Bernanke a eu l'excès d'épargne et ça a amené le conundrum. Et donc, les agences économiques, très rationnellement, et c'est normal, se sont endettés tout simplement parce qu'ils pouvaient s'endetter à bas. Bien. Il s'est fait que l'innovation financière, par un recours massif aux titrisations, dont je montrerai un peu comment ça, a réduit très fortement la prestation du risque. C'est moins d'ailleurs le fait que l'innovation financière, le risque, la pression du risque n'est pas due à l'instrument financier lui-même, mais au fait que les agents financiers se sont libérés de leurs obligations de prudence par une croyance injustifiée dans la compétence ou dans la qualité des agences de notation pour l'analyse du risque. Or, je rappelle que ces agences de notation étaient un monopole, puisqu'il n'y en avait que trois et qu'on ne pouvait pas entrer. Nous verrons donc, premièrement, que l'excès d'épargne est le produit d'une réglementation, que deuxièmement, le fait qu'on se soit libéré de son analyse de risque est également le fruit. Nous verrons qu'ensuite, le système américain, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est dans l'immobilier qu'il y a du socialisme aux États-Unis. Par deux méthodes, la première dont vous avez tous entendu parler, peu de gens l'ont su, mais maintenant, heureusement, ça c'est un peu l'obligation que les banques américaines doivent prêter aux pauvres, ce qui doit toujours arriver, c'est pas connu, et entre autres, obligation qui avait été créée par Carter, mais en fait, qui a été mise en œuvre sous Clinton, qui a obligé les banques à avoir un certain montant aux catégories défavorisées. Mais surtout un autre système, je vous montrerai la mécanique, est un système extraordinairement pervers, qui est le système des foreclosures, qui est totalement déresponsabilisant pour la personne qui s'est endettée. Enfin, un élément qui lui est alors là, qui n'était pas prévu justement à être une bombe atomique, et qui l'est devenu, alors on ne peut pas faire mieux que dire que c'est la réglementation, puisque c'est les normes, qui n'avait pas été prévu pour être une explosion, mais qui le sont devenus. Alors on va aller voir les faits un par un, c'est très simple. À gauche, alors c'est quoi l'excès d'épargne ? À gauche, vous avez l'excédent commercial chinois. En fait, je l'ai mis pour qu'on puisse bien voir les courbes, je l'ai mis en négatif, mais comme vous le savez, c'est un excédent positif, qui donc démarre à partir de 2003. Pourquoi est-ce que vous avez cet excédent commercial énorme ? C'est parce qu'une énorme erreur a été faite. Nous savons tous que c'est difficile, à part c'est arrivé une fois, être à la fois vierge et enceinte, et en général, c'est une connerie inimaginable d'avoir fait rentrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce sans, et en lui permettant d'avoir le contrôle des changes. Ce qui a été un drame épouvantable. Donc nous avons, on va en voir une démonstration éclatante devant nous, nous avons avec ce phénomène où la Chine rentre dans l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire à la liberté du commerce, sans avoir la liberté des changes, il se passe un phénomène simple. C'est que chaque fois qu'un Chinois vend, dans ces dernières années, c'est encore vrai aujourd'hui massivement, un verre aux Américains ou chez nous, il reçoit un dollar ou un euro, qu'il ne peut pas le garder en faire ce qu'il veut, et qu'il l'apporte donc à la banque centrale chinoise. C'est pour ça que je vous ai mis par exemple le phénomène de mimétisme, ce qui fut l'excédent commercial chinois et ce que fut les réserves de la Banque de Chine, puisque la totalité des excédents commerciaux chinois, au lieu de rester dans la poche des exportateurs chinois, allait se retrouver à la banque centrale chinoise. Que fait une banque centrale ? Une banque centrale, d'abord, elle achète des devises étrangères. Sinon, ça ne s'appellerait pas des réserves. Et deuxièmement, elle achète des obligations, et toujours des obligations publiques. D'autre part, quand vous avez à investir, comme ce fut le cas, à la fin, vous démarrez à 50 milliards de dollars à investir en obligations, et vous continuez, vous finissez en 2007 à 450 milliards de dollars par an, vous n'avez qu'un nombre très limité de marchés qui ont la profondeur, ça s'appelle en termes techniques la profondeur, pour pouvoir intervenir. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas acheter la roupie indonésienne, il n'y en a pas beaucoup. Mais en fait, il n'y en avait plus que deux à la fin. Parce que personne n'avait envie d'acheter des obligations japonaises, rapportées 1%. Donc, en fin de compte, ce déversement des femmes chinoises va se faire en achat massif d'obligations du Trésor américain et d'obligations de la zone euro. Peu en Angleterre, parce que ce n'est pas non plus un marché énorme, mais en plus, jusqu'à assez récemment, l'Angleterre n'ayant pas eu d'énormes déficits et une dette publique énorme, le montant n'importe comment d'obligations qu'on aurait pu acheter était faible. Donc c'est massivement les obligations gouvernementales américaines et européennes. Et au même moment, vous avez un redémarrage très fort des prix du pétrole. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il avait baissé. C'est une idée forte sur laquelle il faut regarder, donc je vous montrerai la pertinence. En général, ce qui a baissé monte et ce qui a monté baisse. Et en 99, il se fait que le baril de pétrole était à 11 dollars. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de relire le document qui fut fait à l'époque par The Economist, le journal extrêmement sérieux, qui fait un document que j'aime, qui est de plusieurs pages, qui s'appelle « Le prochain choc », qui annonçait qu'en 5 ans après, en 2004, le pétrole serait à 5 dollars, avec de magnifiques cartes montrant qu'il y avait un excès de pétrole dans le monde. Ce qui veut dire que pendant des années, bien évidemment, aucune recherche pétrolière nouvelle n'a eu lieu, et surtout plus grave, qui n'est pas le fait de la recherche pétrolière, aucune raffinerie n'a été construite. Car n'oublions pas que le problème n'a pas été un problème de manque de pétrole, on le verra tout à l'heure, mais un problème d'absence de raffinerie, tout simplement parce que les prix avaient été trop bas à partir de 99 pour qu'on en construise. Et comme il faut 3 ou 4 ans, qu'on s'est rendu compte qu'on manquait de pétrole raffiné en 2004, ou bien ce n'est qu'en 2004 qu'il y a eu un problème. Parce que depuis, vous n'en avez plus. Et bien à ce moment-là, vous commencez à lancer les raffineries, elles commencent à montrer en œuvre maintenant, ce qui vous explique pourquoi c'est fini. C'était d'ailleurs possible, mais néanmoins, possible à prévoir. Néanmoins, c'est ce qui se passe. C'est sur le graphique que vous avez à droite, vous avez la ligne bleue qui vous montre l'évolution du prix du pétrole à l'échelle de gauche, vous le voyez mal, donc c'est où c'est monté, et vous avez à droite les réserves des banques centrales des pays pétroliers. Nous avons nos amis russes, puis nos amis du Golfe, et même notre ami M. Chavez. Vous le voyez, j'ai mis exprès de le mettre, car n'oubliez pas que M. Chavez, pendant toute cette période, a acheté des obligations du Trésor américain. Et il faut bien faire quelque chose de ce prix. Vous sauvez des dollars, qu'est-ce que vous en faites? Bon, alors certes, il a également fourni de l'Indian Cola à ses populations, et ainsi de suite. Néanmoins, il y avait quand même beaucoup de réserves. Et donc, en quelques années, toujours à partir de 2003, la croissance annuelle des pays pétroliers, de leurs réserves, passe de 20 milliards de dollars à 250 milliards. Donc, vous voyez rapidement dans nos deux calculs, vous rajoutez, vous avez les réserves des banques chinoises, 50 milliards plus 20 des amis pétroliers en 2003, ça vous fait 70 milliards à investir, vous êtes à 700 milliards fin 2007. Investir dans un seul produit, les obligations gouvernementales. Nous allons continuer. Car, au même moment, la croissance mondiale fait que, justement, les besoins d'émissions obligataires des grands pays industriels, les États-Unis et la zone euro, vont se réduire de manière massive. Le déficit budgétaire passe ainsi de moins 440 milliards de dollars en 2004 à moins 170, à moins 170 pour l'exercice 2007. Je signale d'ailleurs en fait qu'à moins 170, vous étiez à 1,4% de déficit budgétaire. Si vous lisiez les journaux, depuis des années, vous étiez persuadé que les États-Unis étaient un pays qui s'endettait massivement avec un déficit budgétaire énorme. Je rappelle que la dette américaine était 37% du PIB, c'est-à-dire la moitié de la nôtre, le quart de la dette japonaise, et que le déficit budgétaire était la moitié du nôtre. Personne qui n'est Figaro ou aucun autre journal ne pouvait le savoir. Puisque, c'est un sera aussi une de mes conclusions à la fin, l'incompétence totale de la presse n'est pas innocente du fait que tout le monde se soit planté. Parce que si les informations que reçoivent les agences économiques sont totalement fausses, il n'est pas anormal que leurs décisions soient également fausses. Enfin, le fait est que, d'un côté, vous avez des gars qui ont de plus en plus d'argent à investir, de l'autre, vous en avez qui ont de moins en moins de besoins. Je reviens exprès sur nos amis, sur le graphique d'avance, mais j'ai oublié de préciser quelque chose d'important. S'il n'y avait pas eu le contrôle des changes en Chine, le Chinois qui recevait des dollars, on aurait fait autre chose. Il n'aurait pas forcément acheté des obligations au Trésor américain. Il aurait pu décider de s'acheter une bagnole, je ne sais quoi, un appartement à Paris, transformer ça en roue, ouais. Il aurait fait ce que fait chacun d'entre nous, librement, de l'argent qu'il gagne. Et donc, j'allais dire, vous auriez fait le contrôle d'échange, le problème de l'utilisation des réserves des banques centrales, de la Banque centrale chinoise aurait été résolu de lui-même par la libre disposition qu'auraient fait les Chinois de l'argent qu'ils gagnaient. Outre le fait que cet excédent commercial avait entraîné une réévaluation du renminbi, une augmentation du renminbi qui n'a pas eu lieu compte tenu que la banque a tenu le taux, ce qui fait qu'en fin de compte, les excédents étaient d'autant plus forts que la monnaie ne s'est pas réévaluée au vu de ces excédents commerciaux. De même, si les pays arabes n'avaient pas eu un peg entre leur monnaie et le dollar, dont on ne peut pas dire que ce soit le fonctionnement libéral de marché, d'avoir les deux monnaies bloquées, quelle que soit leur sorte, les monnaies des pays du Golfe auraient sans doute monté sur cette période. D'ailleurs, on a un exemple précis, parce que le seul pays qui à un moment s'est dépégué, qui était le Koweït, sa monnaie est montée fortement. Et donc, vous auriez eu aussi un autre facteur d'ajustement. Nous voyons bien qu'en termes macroéconomiques, ce déséquilibre qui va apparaître est donc le fruit de deux réglementations. Le contrôle des changes en Chine, le paye des monnaies des pays pétroliers de l'autre. Je continue. Car vous avez maintenant sous vos yeux ce qui vous explique le drame qui va arriver. C'est les deux courbes que vous avez à droite. C'est là, à gauche, c'est en rythme annualisé la croissance de la dette américaine et de la zone euro, c'est-à-dire donc les besoins de financement ces pays vont émettre chaque année. Et à droite, la croissance des réserves des banques centrales. Regardez ce croisement inouï, qui veut dire qu'en 2004, les banques centrales chinoises et arabes avaient 400 milliards de dollars à placer, de moins que les besoins des grands besoins publics des grands pays. Ce qui veut dire que d'ailleurs, c'était le privé qui fournissait le solde. Mais vous vous trouvez en 2007 dans un phénomène inverse. Les besoins de placement uniquement des pays de la Chine et des pays arabes sont de 450 milliards supplémentaires, 435, aux besoins des deux grands emprunteurs dans le monde, qui étaient les États américains et l'État de la zone euro. Eh bien, il se passe un phénomène que les économistes comprennent tous, c'est que s'il y a trop de carottes, un peu la carotte baisse. Et donc, bien évidemment, ceci va conduire à une baisse extraordinaire des taux d'intérêt nominaux et réels des obligations gouvernementales, vous l'avez ici à gauche. Si vous prenez les taux longs réels, c'est-à-dire déflatés de l'inflation, que vous prenez les obligations gouvernementales dans la zone euro et aux États-Unis, ils vont passer d'un taux classique et traditionnel que nous connaissons tous, qui est de l'ordre de 3% sur longue période, à moins de 1% à la fin de la période dans les années 2006-2007. Et à ce moment-là, commence à apparaître le drame. Car au même moment, les gestionnaires d'épargne dans le monde cherchent des produits de taux. Alors pourquoi est-ce qu'ils cherchent des produits de taux? Pour deux raisons. Une, c'est parce que la plupart de ce qu'on appelle les conseilleurs dans la notion active-passive des systèmes de retraite signalent que compte tenu de la vieillissement de la population, il y a intérêt à réduire la volatilité des portefeuilles. Or, traditionnellement, et l'expérience allait nous montrer que cette vision allait être fausse, traditionnellement, évidemment, les obligations ont une volatilité inférieure aux actions. Et donc, au fur et à mesure que le moment où les retraites vont devoir arriver se rapproche, on leur conseille d'augmenter dans leur portefeuille les postes obligataires par rapport aux postes d'action. Deuxième point, comme toujours, vous faites toujours ce que vous n'avez pas envie de faire. Les marchés d'actions, vous allez prendre une claque inouïe entre 2000 et 2003. Et donc, la chose qui est, c'est qu'ils ne peuvent pas m'y mettre. Et donc, les gens veulent acheter des produits de taux. Pas pour, parce que les taux qu'ils avaient l'habitude d'acheter, parce qu'ils n'avaient pas une grande expérience dans ce domaine, qui étaient des taux gouvernementaux, la rentabilité tombe à un niveau tel que vous ne pouvez plus verser les retraites futures avec un taux de rentabilité aussi faible. Qu'à cela ne tienne, l'imagination humaine est en son limite. À ce moment-là, les banques, pour d'autres types de raisons que j'ai exposées, vont se dire qu'on peut développer un produit qui existait déjà, la titrisation de dette. Ça existe, ce n'est pas des produits nouveaux. Ça veut dire qu'on va pouvoir développer le produit titrisation de dette, qui est donc le regroupement des dettes sous un actif financier, et le placer auprès d'institutionnels qui ne trouveront plus la rentabilité nécessaire sur les obligations classiques gouvernementales, vont être contents de la trouver sur des actifs de dette classiques. La raison profonde pour laquelle les banques vont le faire, c'est que, et là, on est toujours sur des termes de réglementation, c'est que la réforme, entre autres, c'est tout ça est technique, mais si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien, c'est pour ça que la plupart des gens, c'est pour ça que vous lisez tellement de conneries sur ces sujets-là, c'est que la modification des règles prudentielles bancaires, et entre autres de la règle, le fait de le Bâle 2, va contraindre les banques à... Je vous rappelle que le système, c'est que normalement, elle doit mettre un certain nombre de fonds propres en face de leur risque. Mais là, on a un coup de peau inouï, puisqu'on va pouvoir ajouter comme rentabilité de ces fonds propres, en plus de la rentabilité de l'activité de crédit, une rentabilité d'intermédiation, puisqu'on ne garde pas le risque, on le refile aux institutionnels. Donc les banques vont lentement et sûrement développer un métier de monteur d'opérations et vont vendre à AXA, à IG, à n'importe quoi, ces crédits structurés. Tout simplement parce que ça vous augmente pour le même montant de fonds propres, ça vous fait forcément une augmentation de la rentabilité de vos fonds propres, puisqu'en plus de la rentabilité venant de votre activité de prêteur, vous avez la rentabilité venant de votre métier d'intermédiaire. Ce qui d'ailleurs va monter dans les fonds propres des banques, dans les chiffres d'affaires des banques à des niveaux très élevés, puisque même la Deutsche Bank, par exemple, c'est 50% du produit, du produit bancaire. Mais, comme je le disais, à partir du moment où tout le monde veut ses produits, le taux baisse. Et comme vous le voyez sur ce graphique ici, si je prends les obligations, ce qu'on appelle le taux réel des obligations, le BA, c'est une obligation d'une qualité moyenne, voire médiocre. Pas mauvaise, pas géniale. Bien. Or, vous voyez qu'en 2-3 ans, à la fin, les investisseurs vont offrir vont un taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils vont acheter suffisamment de ces obligations pour qu'elles rendent, pour qu'elles ne rapportent, qu'elles rapportent ce que rapportait avant une obligation gouvernementale. Donc en termes clairs, ça veut dire qu'elles considèrent que le risque que peut avoir une obligation dite BA de qualité moyenne est le même que celle du Trésor américain, ce qui est évidemment une aberration. Encore là, je ne vous montre pas les aberrations les plus extravagantes, parce que les plus extravagantes, c'est la disparition totale des spreads entre les obligations du Trésor américain et celles des pays émergents. Vous verrez en quelques années des spreads qui étaient en moins de 600 points qui vont tomber à 100 points. Donc comme si, en effet, et on voit aujourd'hui quel effet, la Bulgarie représentait le même risque que les États-Unis. Bien évidemment, la vie sera douloureuse. Alors, ce premier point que j'ai de là me permet déjà de faire litière d'une attaque totalement fausse et totalement injustifiée sur l'abus financier créé par Greenspan. Elle est totalement fausse, puisque l'afflux de financement dans le monde n'a rien à voir avec ce qui était avant, c'est-à-dire la transformation bancaire des banques qui empruntent auprès de la Banque centrale pour reprêter, mais par un excès d'épargne. C'est d'ailleurs ce que Greenspan lui-même va déclarer en 2005, quand il va lancer ce fameux mot de conundrum. Donc vous voyez devant vous la démonstration. Nous avons bien en effet à partir de 2000-2001, quand il y a eu à la fois l'éclatement de la bulle Internet, l'attentat du 11 septembre et l'affaire Enron, vous avez bien une baisse continuelle des taux de la Fed qui va l'année jusqu'à 1% en 2002-2003. Quand la machine repart, Greenspan monte bien les taux, il va les monter 10 fois de suite pour les amener de 1 à 5,25. Impact sur les taux longs, zéro. Et pour cause, puisque les taux longs subissent le taux de l'excès d'investisseurs qui veulent acheter des produits de taux. Donc Greenspan a beau essayer de monter les taux pour calmer ce qui l'appelle lui-même, ce qui commence à voir comme une bulle sur les prix des actifs, l'impact est inexistant. Et le second élément que vous avez sous les yeux, c'est également un effet de la réglementation, qui est toujours américaine, c'est que le fait que les taux gouvernementaux soient très bas va entraîner que les taux hypothécaires vont l'être également. Pourquoi ? Parce qu'à cause de l'existence de ces deux agences qui s'appellent Fannie Mae et Freddie Mac, qui bien qu'étant théoriquement non garanties par le Trésor américain, sont de fait dans l'esprit de tout le monde garanties, puisqu'on sait qu'il ne pourra pas, et la preuve en a été donnée, se permettre de leur faire faillite, compte tenu des engagements colossaux qui étaient supérieurs à 7000 milliards de dollars qu'elles avaient. Donc, les gens se disent, c'est formidable, j'ai en fin de compte, me rapportant 100 points de plus, une obligation quasiment comme sur une obligation du Trésor américain, et donc, quoi que fasse ce pauvre Greenspan, ça n'empêche absolument pas les taux de rester bas et le crédit hypothécaire de se distribuer à ce niveau très bas. Alors, je ne vais pas vous dire, parce que vous savez, vous avez tous lu Greenspan affaire, s'est battu la poitrine sur son erreur, vous savez que tout ce que vous entendez là-dessus est faux. Ce qu'il a reconnu, et je dois avouer que moi j'ai fait la même erreur d'ailleurs, nous l'avons tous fait un peu collectivement, ce qu'il a reconnu, c'est qu'il a été trompé sur la bonté humaine. En fait, en termes clairs, il dit, et alors malheureusement j'ai voulu le retrouver avant de venir, je l'ai dans mon ordinateur, mais je ne l'ai pas, il a pensé que l'avertissement qui ont été envoyés par la Fed et la FDIC et toutes les autres, fin 2005 aux banques, dans leur disant, vous êtes en train de commencer à faire des conneries énormes, entre autres sur le subprime, avec des nouveaux crédits sur lesquels vous ne redemandez pas le remboursement de capital à l'origine, vous avez non-paiement de taux d'intérêt, va vous entraîner un désastre énorme. Et Greenspan, à ce moment-là, moi je me souviens d'avoir fait la même erreur en 2005, vous dites, bon ça y est, vous avez une bulle qui commence à se créer, coup de peau, la Fed envoie à toutes les banques, forcément, celles-ci recevant cette information vont arrêter de faire des conneries. Au contraire, c'est exactement l'inverse qui a lieu, car en fait, le comportement humain a été particulièrement pernicieux, c'est que bon, la Fed nous dit qu'il faudrait peut-être arrêter, donc on a peu de temps pour continuer. Et donc l'année 2006 va être une année, la plupart des subprimes étaient faits en 2006, l'année 2006 va être justement l'année consécutive à l'avertissement envoyé à tous les opérateurs financiers sur le risque de ce qu'ils faisaient. Ça mérite pour nous une certaine réflexion. Parce que vous vous apercevez, alors on essaiera de voir ensuite pourquoi est-ce que le comportement était pervers. Est-ce qu'il y a un moyen d'empêcher? Moi j'ai une réponse, c'est que oui. Qui n'est pas un moyen réglementaire, qui est un moyen beaucoup plus simple, et je ne le donnerai qu'à la fin. Bien. Néanmoins, que se passe-t-il? Vous l'avez ici sous les yeux, cette espèce d'afflux sans inquiétude, fait baisser ce qu'on appelle la prime de risque. C'est-à-dire que vous voyez là, ici, je vous ai mis exprès le différentiel entre une obligation du Trésor américain et une obligation BA. Elle était montée terriblement dans les années 2000, lorsqu'il y a eu la crise d'Internet, puis c'est tombé à un niveau très bas. Alors, qu'est-ce qui garantissait, qu'est-ce qui rassurait? Pourquoi les institutionnels ont acheté massivement comme ça, alors qu'ils n'ont aucune compétence pour juger des risques de crédit? Parce qu'ils se rassuraient par le fait que ce risque de crédit était noté par les agences de notation. Donc je vais parler après, parce que j'ai un truc spécial là-dessus. Mais à cause de ça, ils se sont déchargés en des mains extérieures de quelque chose qui normalement est consubstantiel à votre métier quand vous êtes financier, qui est l'analyse du risque. Donc, ils ont investi des milliards, le nôtre, je fais des milliards des retraites, ils ont été investis sans avoir fait son devoir, qui était d'analyser le risque du produit, parce qu'on s'en déchargeait entre les mains de M. Standard & Poor's, Moody's ou Fitch. Il y en avait trois dans le monde. Rappel, puisque vous n'aviez pas le droit d'entrer nouveau. Si vous aviez eu la possibilité d'entrer nouveau, vous auriez peut-être eu des gars. Et si il y avait eu des nouveaux qui auraient été payés, non pas par l'émetteur, mais par le souscripteur, ça aurait changé drôlement la face des choses. Mais comme vous le voyez, vous allez voir par le graphique, le fait qu'on croit qu'il n'y a pas de risque ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et donc, les types, en l'espace de un an, se sont rendus compte qu'en effet, le risque n'était pas tout à fait le même, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'écart est de 600 points de base entre une obligation dite BA et une obligation du trésor américain, ce qui prouve, comme je dis souvent, que dans l'histoire du coup de pied au cul, c'est pas toujours le pied le plus coupable, et le grand hommage à Maniarakis qui est ici, c'est l'auteur de cette formule. En tout cas, je sais pas si c'est toi, mais c'est toi qui me l'as appris il y a 30 ans, et je l'utilise énormément depuis, parce qu'elle la trouve particulièrement parlante et juste. Donc, cruel retour de bâton. Bien. Alors, nous sommes donc, nous comprenons, nous avons vu, pourquoi vous avez eu un extraordinaire développement des produits tôt, les gens, vous avez eu une offre et une demande. Va venir, il se fait que par un malheur, comme ça, parce que le malheur des temps peut arriver, cet déversement d'épargne sur les produits tôt va se faire à l'avant, profit de l'immobilier américain. Or, ça va être effroyable pour deux raisons. C'est que l'immobilier américain aura, alors, attendez, je suis désolé de dire quand je dis pour des raisons, pour une très claire, que vous avez à droite. Ensuite, on rentrera dans le détail. Regardez la graphique de droite, vous le voyez peut-être mal. Il faut savoir que il n'y avait pas d'exemple depuis la guerre que l'immobilier résidentiel américain baisse de plus d'un an. Moyennant quoi, les agences de notation, dont on oublie toujours cet élément fondamental, qui n'analysent pas le risque, ce n'est pas vrai. On croit que les agences de notation analysent le risque. C'est une idée totalement fausse. Les agences de notation sont une boîte statistique qui vous disent le risque passé sur le produit que vous avez. Et donc, ils vous mettent dans une petite boîte, vous arrivez vous-même, si vous êtes en entreprise, vous arrivez avec votre bilan, ils ne vont pas regarder si vous allez faire des pertes dans 18 mois, ils vont dire, compte tenu de votre capital, de votre bilan, de vos activités, vous êtes dans la boîte numéro 1, ce qui vous fait que vous méritez un taux BA. Et ils ne vont même pas vous demander quel va être votre chiffre d'affaires dans 3 mois. D'ailleurs, ils ne le veulent pas. Ils disent, je vous note le jour où vous arrêtez le bilan, le jour où vous demandez votre notation, et afin de pouvoir avoir un petit statistique. Le fait qu'il n'y avait pas d'exemple d'avoir perdu de l'argent sur un crédit immobilier, puisque celui qui récupérait le bien avait toujours pu le vendre sans perte, fait que le crédit immobilier aux États-Unis valait triplé, la meilleure note qu'on puisse avoir. Et donc, c'était formidable d'en avoir. Puisque, et ça je l'ai vécu, puisque là c'est des expériences, je l'ai vécu, je me souviens très bien qu'il y a 2 ans, dans une caisse de retraite qui est que j'ai comme client, qui n'avait jamais, dans toute sa vie, acheté des obligations gouvernementales, me dit, le directeur me dit, bon là, alors eux, ils achetaient des fonds immobiliers et des fonds LBO. Alors je lui dis, mais attendez, c'est risqué ça, hein, c'est pas lutté. Il me dit, non vous inquiétez pas, je n'ai que des crédits AAA. D'ailleurs, mon board ne m'a autorisé de ne prendre que des AAA. Je lui dis, et si le AAA est directé? Il me dit, ben, je le vends. Et je dois avouer que ça a été pour moi un éclair de lumière, ça date d'il y a 3 ans, je me suis dit, mais dans le monde entier, tout le monde doit le vendre au même moment. Et donc, ça va être un désastre absolument effroyable. Car je n'aurai pas l'acheteur, j'aurai des vendeurs. Car les gens avaient l'autorisation, ils avaient l'habitude d'avoir des obligations gouvernementales. Alors, il y avait toujours des aventuriers qui décident de prendre une part de dette avec un plus fort taux. Mais vous avez énormément de caisses de retraite et des institutions sérieuses qui sont dit, oh, entre un tripolet et la gouverture gouvernementale, il n'y a pas un risque majeur différent et ça ne me rapporte plus. Or, il allait se passer quelque chose d'affreux, c'est le système des foreclosures, qui est aussi un système socialiste américain, qu'on connaît peu, qui est qu'aux États-Unis, lorsque l'emprunteur rend les clés de sa maison à la personne qui lui a prêté, il est libéré de sa dette. Mais, oui, vous avez emprunté 1 000, l'année d'après, vous dites que vous ne remboursez pas, vous mettez dans la boîte aux lettres de la banque la clé de votre maison, vous partez, vous ne devez plus rien. Ce qui veut dire que dès... Comment ?
Il faut laisser la maison.
Voilà, d'accord, mais comme les subprimes, qu'est-ce qui s'est passé dans les subprimes ? Les gens n'avaient rien apporté. Et dans le subprime, qu'est-ce que c'est que le subprime à partir de 2006 ? Parce qu'il faut quand même voir, là vous avez quand même un vrai problème qui se pose à nous. Le subprime à partir de 2006, c'est que tous les Américains, compte tenu des taux d'intérêt qui avaient été très bas, tous les Américains qui avaient des revenus normaux s'étaient achetés une maison. C'était fini. Et donc en 2006, il ne reste plus que des gens qui n'ont pas de ressources. Mais il faut bien vivre. Or, vous avez, n'oubliez pas, le métier de broker en crédit immobilier aux États-Unis. Et donc, que va-t-il se passer ? Il va se passer que ces gens-là vont venir proposer à des gens qui n'ont pas de ressources d'avoir un crédit immobilier. Les gens qui n'ont pas de ressources ne sont pas cons pour ça. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de ressources, ils sont forcément idiots. Et ils disent, mais j'ai pas d'argent. Pas d'importance, on ne vous demande pas. Alors là, ça commence à devenir plus intéressant. On ne vous demande pas de rembourser le capital les premières années. Oui, mais il y a l'intérêt. Ah, ça tombe bien, on comptait justement pas vous en demander la première année. La seconde année, on vous demandera peut-être 2-3%, et la troisième année, on vous demandera 5-6. Tu me dis, oui, d'accord, mais si je peux pas, ben, vous vendrez, ça monte de 15% tous les ans. Et donc, hop, voilà des tas de gens qui achètent à ce moment-là des maisons. De bonne foi. Le courtier immobilier, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont, je ne suis pas un investisseur dans le rapport, c'est vrai, est quand même un escroc en général. Et donc, va présenter à la banque un bilan faux. Ce n'est pas un chômeur sans revenu à qui on propose un crédit, c'est un brave ouvrier de chez Ford qui a un revenu de temps. La banque, avant, elle aurait regardé le risque, mais elle s'en fout, puisqu'elle le regroupe en paquet dans un crédit, dans un titre immobilier, et le refile immédiatement à un institutionnel qui est ravi de l'acheter, puisque le fait qu'elle fait un titre immobilier fait que, paf, il y a une note tripolée. Là commence à venir la responsabilité des agences de notation qui auraient dû se rendre compte que la modification des crédits immobiliers par rapport au passé, c'est-à-dire que les mecs ne soient pas obligés d'apporter de contrat, ne soient pas obligés de rembourser le capital, ça. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, la Fed avait attiré l'attention des banques sur ce problème. Donc vous êtes en train de faire des crédits qui vont péter à la gueule. Personne ne le regarde, on le refuse aux institutionnels, qui eux sont tout contents parce que M. Standard & Poor's vous fait un tripolé. Maintenant, si vous me demandez pourquoi M. Standard & Poor's continue à être interpellé, on rentre dans des comportements humains extrêmement intéressants. Mais je crois que tout ça mérite, mais je crois que j'ai un capital là-dessus. Donc, à ce moment-là, vous avez un effet inouï. Dès que ça commence à baisser, la boule ne peut que rouler de plus en plus. Car qu'est-ce que font les gars ? Dès que la première année, au bout d'un an, les types, c'est pas du tout. Ils n'ont toujours pas d'argent. Et ils disent, alors ils disent, ah bah oui, mais maintenant, cette année, non, l'année dernière, vous ne payez pas de... Cette année, vous avez payé 3%. Vous avez peut-être vu une fois à la télévision, je l'ai vu une fois, l'histoire d'une bonne femme qui disait, vous comprenez, c'est affreux, d'un seul coup, ma charge mensuelle est passée de 300$ à 1000$. Elle habitait dans une maison pour une charge mensuelle de 300$. Ce qui n'était pas beaucoup. 1000$ n'était toujours pas beaucoup, mais elle ne les avait pas. Donc elle rend les clés. Mais à partir du moment où tout le monde rend les clés, ben, les banques qui n'ont pas vocation à être marchands de biens vont commencer à le mettre sur le marché. Et à ce moment-là, ça commence à baisser. De plus en plus de gens rendent les clés, évidemment, puisque je ne vois pas pourquoi m'embêter à payer à ma banque 1000$ pour une maison plus belle. Pas fou. D'ailleurs, j'ai même intérêt à la vendre pour en acheter une autre, parce que c'est devenu difficile, qu'on ne veut plus le prêter. Ça ne fait rien. Et donc, pas fou. Et donc, la boule se met à rouler, et à ce moment-là vient la fin du fin de la mécanique infernale et affreuse, qui est que commence à ce moment-là à jouer de manière explosive la modification de l'arrêt comptable de 2002, qui s'est appelé le passage du mark-to-market, qui va être une bombe atomique inouïe que peu de gens ont vu, BBR l'avait vu, il faut lui reconnaître ça, le mérite, en 2002 peu de gens l'ont vu, qui était la modification des règles comptables, qui au lieu que vous le fassiez, vous mettiez vos actifs au prix d'acquisition, vous mettiez les mettre au prix du marché. Or, c'est ce cumul de ces deux éléments qui va être explosif, car si les banques avaient approvisionné, même encore aujourd'hui, uniquement la baisse de valeur des maisons, elle provisionnerait 25%. Mais pas du tout. L'ensemble des gens qui ont acheté n'ont pas acheté des maisons, ils ont acheté des titres financiers dont la valeur de marché peut être de 10, même si le sous-jacent derrière, tôt ou tard, vaudra 80. Et donc, quand vous entendez, comme vous l'avez entendu il y a 2 jours, ou il y a 3 jours, ou il y a 5 jours, que par exemple, vous avez 100 milliards de pertes chez Indian Alliger, ou même à la Royal Bank of Scotland, il faut savoir que ce ne sont pas des pertes réelles. La Royal Bank of Scotland, les 2/3 de ces pertes énormes qu'elle a fait il y a quelques jours, sont des pertes dues uniquement à l'obligation qui n'existait pas il y a 5 ans, de provisionner la valeur aujourd'hui d'ABN AMRO par rapport au prix où ils l'ont payé. C'est donc, c'est pas parce qu'il y a des mecs qui viennent aujourd'hui se présenter à la Royal Bank of Scotland en disant « je ne rembourse pas mes crédits ». Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Donc, vous êtes arrivé dans un milieu, dans un truc, c'est pour ça que la phrase d'André Casse est très juste. L'explosion vers la combinaison de 2 produits chimiques aux doses non maîtrisées, la règle du mark-to-market, et les normes de solvabilité des banques. Je vous en ai dit un mot tout à l'heure en vous expliquant que, compte tenu que les banques, à cause de Bâle 2, sont obligées d'avoir des fonds propres différentiels sur le type de crédit, lorsque vous dérêtez un de leurs produits, alors que vous passez si, le crédit immobilier par le AAA à W, il faut que les fonds propres soient multipliés par 3 ou 4. Si au même moment ils ont des pertes, vous avez aboutissé à un problème de contraction monstrueux des encours de crédit dû à la diminution des fonds propres d'ordre virtuel, diminution virtuelle. C'est ça qui est terrifiant dans cette affaire. Il y a une grande partie virtuelle. Et donc, l'approfondissement de la crise financière est moins dû à de nouvelles pertes réelles, sauf à partir du moment, et nous sommes en train d'entrer dans ce scénario, où les pertes financières se traduisant dans l'économie réelle, la récession ou dépression qu'elle peut induire va conduire à des vraies pertes réelles, puisqu'il y a des entreprises qui déposent leur bilan. Donc vous avez eu un mélange de règles comptables désastreuses. Certes, la valeur d'acquisition était critiquable, et c'est pour ça qu'on a voulu la changer, entre autres à cause de l'affaire Enron, donc il faut toujours se méfier de l'enfer qui est pavé de bonnes intentions. On a dit, vous voyez, sur Enron, on s'est tous fait avoir, parce que le bilan d'Enron était faux, parce que c'était bourré d'actifs qui étaient à valeur d'acquisition, alors que ça n'avait rien sur le marché. On dit, bon, on ne se fera plus avoir, maintenant ça sera la valeur de marché. Enfin, bon, on n'avait pas repéré que s'il y a une valeur de marché, s'il n'y a plus de marché, la valeur tombe à zéro, quelle que soit la valeur des sous-jacents. Ce qui est exactement le cas dans l'immobilier. Les gens qui aujourd'hui peuvent acheter des portefeuilles de crédit immobilier, feront dans 10 ans, auront fait fortune. C'est évident. Vous pouvez acheter à 10 des trucs qui, même si les prix des maisons baissaient par 2 et ne remontaient jamais, le type est sûr de gagner ou multiplier par 5. C'est une certitude. Mais comme il n'y a plus de liquidité, c'est difficile de l'acheter. Mauvaise compréhension du fonctionnement des agences de rating. Les critères de solvabilité, c'est ce que je dis. Le passif d'AIG ne dépasse pas l'actif, loin s'en faut. Il n'y a aucun risque pour le contribuable aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas de transfert de risque sur les contribuables. Les contribuables, aujourd'hui, quand les États rentrent dans le capital des banques, ils rentrent avec des... Et en fin de compte, ils ruinent l'ancien actionnaire. Mais tant pis, il n'avait qu'à faire gaffe. Moi, je m'en fous. Honnêtement, je ne pleure pas sur les actionnaires du système financier. Tant pis, ils ont laissé... Et on verra comment on peut résoudre ce problème. Ils ont laissé se faire n'importe quoi, donc il ne faut pas qu'ils pleurent. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que c'est le contribuable qui mettra la main à la pâte, parce qu'en fin de compte, ils vont sans doute faire une affaire absolument prodigieuse, puisqu'ils rachètent des actifs qui auront à la fin de la fin de la fin des valeurs 4 à 5 fois supérieures au prix où ils l'ont payé aujourd'hui. Mais si vous avez une crise virtuelle, le crédit crunch, c'est-à-dire la diminution des encours de crédit dans le monde que cette crise virtuelle a créée, est lui bien réel. Il aboutit à une crise économique réelle de grande ampleur, dont je vais vous montrer quelques signes. Alors comment ça s'est passé? Cette crise s'est passée en 2 temps, que vous avez sous les yeux très facilement. La première, c'est 9 juillet 2007. Comment est-ce qu'on sait qu'une crise interbancaire? Comment? T'inquiète pas, dans 20 minutes, tout est fini. Et donc, vous avez les banques veulent plus prêter. En termes clairs, vous le voyez. Alors, la dernière période, celle d'octobre, est très intéressante après l'affaire Lehman. Vous avez une telle panique que l'ensemble des banques créditrices dans le monde achètent des trésoreries bis à 0% plutôt que prêter aux autres banques. Donc, c'est ça ce qui fait le crédit crunch. Donc, vous allez voir une démonstration éclatante par ce graphique. Le multiplicateur financier. Oui, qui remonte. C'est pour ça que je ne suis pas. C'est très important. Donc, qui est la masse monétaire N2 sur la base monétaire. Vous voyez en l'espace de 3 semaines. Une division par 2, c'est-à-dire en termes de ça, c'est une démonstration éclatante du fait de l'arrêt immédiat et brutal du crédit. C'est donc à cause de ça que se transmet la crise financière à la crise économique. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez... Alors, second élément qui mérite pour nous réflexion aussi. Hein. Parce que là, je vous mets exprès des éléments qui, pour les libéraux, méritent réflexion. C'est celui-ci. Qui est là, le vert, la ligne verte, et l'indice de confiance des CEO, donc des chefs d'entreprise, et le bleu, c'est la bourse. Vous ne voyez pas de relation très forte, même si vous ne le voyez mal là, jusqu'en 2000. Vous commencez à en voir une relation forte à partir de 2000. Pourquoi ? Ben moi, je prétends que c'est l'effet pervers des stock options, des bonus et autres. Quand un type voit 90% de son patrimoine disparaître en bourse, il n'a plus le moral. Eh bien, il n'investit pas, même son entreprise, même si c'est une entreprise qui... Car vous savez que les cash flows opérationnels aux États-Unis n'ont pas baissé pendant toute l'année 2008. Elles sont au même niveau qu'en 2007, et ça veut dire que les niveaux des marges restaient plus élevés. Or, vous avez une baisse que vous allez voir tout de suite de 30% en rythme annualisé au cours du dernier trimestre. Cette baisse de l'investissement n'est due qu'à l'addition de deux éléments. La route du crédit est coupée, outre le fait que vous ne pouvez même plus émettre une obligation corporelle. Et deuxièmement, les mecs ont la crue parce qu'ils sont ruinés. Si vous voulez, là, vous commencez, nous, pour nous, ça commence à nous interpeller quelque part, parce qu'on commence à voir un effet pervers des indications de marché, qui entraînent des conséquences très malheureuses sur l'économie réelle, mais nous essayons de voir pourquoi les marchés se sont plantés. C'est ça qui est... Alors, si vous voulez, je voudrais simplement vous dire, puisque tu voulais savoir où on était maintenant, on n'en est pas très bien. Alors, commande à l'exportation des biens d'équipement au Japon. C'est un élément non négligeable de la croissance japonaise. C'est donc un truc qui baisse le camp. Enfin, on n'a jamais vu ça, c'est-à-dire 40% en 3 mois. L'Allemagne, pareil, hein. C'est bien. Et donc, en gros, bon, je vous passe tout ça, parce que sinon c'est trop long, en disant que ça va très très mal. Bien. Là-dessus, nous allons maintenant, jusqu'à maintenant, je pense que vous avez été d'accord avec tout ce que j'ai dit, puisque d'ailleurs c'était des faits, et maintenant nous allons peut-être rentrer dans un scénario plus conflictuel, qui est l'analyse des décisions prises et le jugement pour savoir si elles sont bonnes ou non. Ce qui a inspiré, en tout cas la Fed, principalement, c'est l'analyse d'Irene Fischer, que vous connaissez tous, qui est le Debt Depletion Theory, qui reste, en tout cas pour la Fed, l'élément, la contribution majeure à la pensée économique, pour eux. Et donc, c'est l'analyse, comment est-ce qu'on rentre dans une dépression des passions, et surtout comment on en sort. Voilà. Alors, je rappelle que l'analyse de Fischer est fondée sur la Fed, le fait qu'une dépression des passions démarre par une baisse du prix des actifs qui ont été financés par la dette. Cette baisse entraîne des sinistres bancaires, qui oblige les banques à accroître leurs provisions, qui fait une baisse des réserves des banques, qui fait une baisse du coût de leurs fonds propres et donc des crédits, une baisse de la masse monétaire, une baisse de l'activité économique. Et en gros, voilà le cycle, vous l'avez sous les yeux, accroissement des sinistres, provisions, diminution des marges bancaires, baisse des fonds propres bancaires, crédit crunch, diminution de la masse monétaire, ralentissement économique, qui entraîne de nouvelles provisions, et la machine se nourrit toute seule. Comment elle se répercute dans l'économie réelle, si je peux dire, de l'économie financière et de l'économie réelle? Le crédit crunch entraîne une réduction des prêts aux ménages qui entraîne immédiatement une baisse de valeur rapide et continuelle de l'immobilier, puisqu'il n'y a plus d'accès, il y a toujours des vendeurs, mais il n'y a plus d'acheteurs. Le crédit crunch entraîne une réduction des crédits à l'investissement, qui n'importe comment sont frappés de l'autre côté par le ralentissement économique, entraîne une diminution des cash flows des entreprises. Celles-ci donc baissent leur investissement, et en même temps réduisent l'emploi, qui est la seconde variable, elles ont deux variables pour survivre. L'investissement et l'emploi, diminution des revenus des ménages qui sont frappés deux fois, ils n'ont pas accès au crédit, c'est pour ça qu'ils n'achèteront pas de bagnole, c'est clair. Et c'est pas par hasard que la consommation qu'elle peut souffrir, c'est celle qui dépend du crédit. Ils n'achètent pas, et en plus, contraction du patrimoine en volume, et donc une diminution des dépenses courantes. Voilà le cycle traditionnel de la récession. Si vous ne le bloquez pas, vous passez en récession déflationniste, rajoutez une dépression. Bien. Fischer, qu'est-ce qu'il dit à l'époque? Il y a trois règles, sauver les banques, sauver les banques, sauver les banques. Mais je veux dire, nul ne peut nier que ça soit vrai. C'est un fait. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire par la baisse forte des taux d'intérêt à court terme pour augmenter les bénéfices des banques sur leur exploitation courante. Alors, en cours de crédit, ils peuvent se refinancer auprès de la banque centrale à taux beaucoup plus bas. Vous pouvez faire de l'augmentation de capital, ce qu'on a essayé de faire au début. Puis, d'un seul coup, il n'y a plus d'augmentation de capital privé, parce que chaque fois que les gens y ont été, ils ont perdu 60% de leur fric. Donc, à la fin, il a bien fallu mettre l'État derrière, tout simplement, parce que, face à des pertes virtuelles... Alors, nos amis, enfin, des amis républicains qui n'ont pas voté le premier plan Paulson, disaient une chose qui était profondément juste. Pourquoi s'emmerder avec l'argent? On n'a qu'à changer les règles comptables. Ils avaient raison. Ils avaient raison. C'est un fait. Bon, on a choisi, au lieu de changer les règles comptables, de faire de la moisson de capital. Donc, il faudra bien changer les règles comptables quand même. Hein. Et puis, elle a repris les sinistres par la puissance publique. Et donc, voilà ce qui est tenté d'être fait. Je vous passe rapidement. C'est ce qui est fait à l'heure actuelle, tous les jours. Bien. Et donc, normalement, ce qui est visé par cette politique, c'est d'inverser le système, que à la fois l'augmentation des marges bancaires due au fait que les banques se font maintenant 500 points de marge sur leurs encours de crédit, plus ces augmentations de capital, plus ces reprises de provisions, fera un jour, à travers les fonds propres bancaires, l'augmentation des crédits, l'augmentation de la rapide de la masse monétaire, ça. Et que du coup, tout le circuit repart dans le bon sens. Est-ce que cette analyse est juste et bonne? Ma thèse, c'est que oui, et d'ailleurs, elle n'est pas vraiment discutable. Bien. Nous verrons en pourquoi. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avant? Non. C'est ensuite, à mon avis, c'est le second point où vous allez discuter. Mais là, ce qu'on aurait pu faire, c'était de voir qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour qu'il n'y ait pas cet effondrement des fonds propres bancaires. Quelles sont les mécaniques qu'on peut mettre en œuvre pour éviter la répétition de ce phénomène? La seconde médecine utilisée est celle que vous n'allez plus discuter, qui est donc les recettes keynésiennes. Nous n'allons pas rentrer dans le détail de tout ce que Keynes propose. Derrière, quand il y a une idée vraie et forte et juste de Keynes, qu'on ne peut pas nier, c'est que lorsque vous rentrez en récession, sur les trois grands agents économiques, deux réduisent de manière importante leurs dépenses, les ménages et les entreprises. Les ménages, les deux secteurs du privé, augmentent leur taux d'épargne de manière importante, immédiate. Les ménages, parce qu'ils ont peur du chômage, les entreprises, parce que la route du crédit étant coupée, elles utilisent leur cash flow qui est en baisse pour leurs besoins de fonds de roulement, et donc ne vont pas dépenser. Et donc, la théorie de Keynes, c'est de dire, en plus, l'inquiétude générale des prêteurs fait qu'ils ne veulent pas prêter au secteur privé, et Keynes donc dit, le bénéfice budgétaire devient alors non un mal, mais un bien, car l'État est le seul agent économique qui a la possibilité de s'embêter à bas prix, et donc il faut qu'il le fasse, non pas pour relancer la machine économique, mais pour éviter que la récession devienne une dépression, en attendant que le secteur privé puisse redémarrer normalement après le sauvetage du système bancaire. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous critiquent l'analyse keynésienne, je ne le ferai pas. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'intention de rentrer dans ce débat tout de suite, je voudrais simplement dire qu'il l'utilise à l'heure actuelle, et on va finir dans 30 secondes. Donc il n'y a pas d'inquiétude, mon cher Henri, mais je finirai, je dirais, les interrogations que moi, sur le terrain, la crise a amenées. Et donc ça va être fait de manière colossale. Comme vous le savez, le budget d'Obama est de 12% du déficit, 12% du PIB. Le dernier exemple est 1942. Et c'est là où ça devient très intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez vous apercevoir que tout ce qu'on croit, c'est faux. C'est parce qu'on croit. Nous savons tous la science qui nous permet de savoir que c'est faux. Ce que croient la plupart des gens est faux. Premièrement, il n'y a aucune limite à l'endettement public. Deuxièmement, il n'y a aucun impact sur les taux d'intérêt. Et comme ceci veut le démontrer, par degré de plein, voici la dette publique émise en pourcentage du PIB aux États-Unis de 1940 à maintenant. Vous avez deux périodes où elle est fortement montée. La guerre 40-45, où elle passe de 50% à 110% du PIB. Deuxième période, la période Reagan, le début, parce que la réforme fiscale réduit les recettes budgétaires, et la seconde, qui est la guerre des étoiles. Bien. Comme vous le voyez, c'est pas parce que vous êtes fortement endetté que votre dette ne peut pas baisser. Tout ce que vous avez entendu, tout ce que les gens disent, tout ce que les gens racontent tous les matins sur « il faut de l'inflation » est totalement bidon. La dette américaine va passer de 110% du PIB à 28% en 66. Pendant cette période, le taux d'inflation est de 1,5%. Le taux d'inflation monte fortement à partir de 70, la dette ne se réduit pas. Les taux d'intérêt, c'est justement en 40-42 qui vont atteindre leur plus bas historique, 2,5%. Ils ont baissé continuellement pendant que la dette Reagan montait. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt ne sont absolument pas sensibles à l'augmentation de la dette publique, sauf au Rwanda, Burundi, mais pas dans un pays comme les États-Unis ou même pas dans la zone euro, ils sont sensibles au risque inflationniste. Point barre. Et la dette se rembourse tout simplement lorsque vous avez un taux de croissance supérieur, en fait, c'est une petite équation, s'il suffit que le déficit budgétaire produise une augmentation du déficit inférieur au taux de croissance, votre dette forcément se réduit en pourcentage du PIB. Et donc, et la meilleure manière en plus, c'est de passer un excédent budgétaire. Donc vous pouvez avoir une diminution de dette, il suffit d'avoir un gros taux de croissance et un ralentissement de vos dépenses publiques. Évidemment, nous, on ne savait pas ça en France, que c'est jamais arrivé. Mais aux États-Unis, d'ailleurs, on prouve que ça arrive souvent. Je vais vous donner un autre exemple absolument fabuleux. Alors lui, c'est un contre-exemple affreux. Le Japon, qui est toujours dans la mouise, mais néanmoins, ils sont quand même passés, leur dette publique est passée de 50% à 160% du PIB en 12 ans, et les taux d'intérêt sont passés de 8 à 1. Ce qui montre quand même, par ces deux exemples, qu'on ne peut plus prétendre au jour d'aujourd'hui, d'abord qu'il y a une limite à l'endettement, et deuxièmement, que ça fait monter les taux d'intérêt. C'est pas vrai. C'est vrai dans des pays qui n'attirent qu'un cas. Pourquoi ces deux pays ont pu? Et pourquoi ils peuvent encore? Pourquoi? Parce que le Japon est épargnant structurellement. Donc l'épargne japonaise a été dans un actif sans risque. Et aux États-Unis, parce qu'ils attirent l'épargne du monde. Il n'y a que les gars qui lisent le monde qui croient que les gens ont peur des États-Unis. Tous les gens qui ont de l'argent dans le monde, la seule chose qu'ils adorent, c'est d'acheter des obligations du trésor américain, même à 3% sur 30 ans. Qu'ils soient baisés tous en faisant ça, c'est une certitude. Mais il n'y a pas de limite à la possibilité de baiser les gens, en gros. Quoi. Bon. Donc j'en ai fini. Je vous dirai ensuite, ça sera le débat, ce que je pense de l'avenir. Mais je voudrais dire ce que ces remarques, ce que ces 4 années m'ont appris et m'ont fait voir. Les économistes n'ont rien vu venir et ça continue. Les opérateurs de marché ont été totalement sourds aux avertissements envoyés. Les journalistes ont été d'une totale incompétence. Les marchés ont été manipulés. Ça peut vous paraître étonnant, mais je vais vous le prouver. Cette crise est une crise d'abord de l'information pertinente. Les marchés n'ont pas reçu une information pertinente et donc ont répercuté une mauvaise information aux agents d'économie réelle en leur donnant des valeurs de marché qui ne correspondaient pas à la réalité de l'offre et de la demande. Je vais vous le démontrer en 5 graphes. Premièrement, quand je vous dis que les économistes n'ont rien vu venir, vous le savez, mais je me suis amusé à le mettre. Voici les prévisions de PIB 2008 faites par le consensus des 240, la moyenne des 240 prominent financial and economy forecasters. C'est-à-dire que la probabilité de se mettre le doigt dans l'œil est extrêmement colossale. En juillet 2007, ils croyaient pour 2008 en moyenne que le PIB américain serait de 2,75%, l'Europe de 2,50%. Vous avez les chiffres réels à la fin. Les gars, c'est vraiment la fin de l'année. À partir de mi-2008, ils ont commencé à savoir qu'on était dans le trou. Vous me direz que ça vaut bien Trichet, qui au début de l'année a quand même annoncé début 2008 que l'Europe était sur une pente de croissance forte, soutenue par la consommation, et qui en septembre, qui en juillet 2008 a monté les taux, et en septembre 2008 a dit que le risque était inflationniste et que nous aurions une inflation de 3,4% dans la zone euro. Je vous rappelle qu'on est négatif sur les 6 derniers mois. C'était en septembre 2008. Donc, là aussi, vous avez quand même quelques responsables qui envoient des informations un peu fausses aux opérateurs de l'économie. Normal, mais enfin, la seule différence, c'est que tous les banquiers qui ont fait ce genre de conneries, aujourd'hui, sont chômeurs et c'est de l'eau gouvernement de la BCE. Bon, passons. Les opérateurs n'ont rien voulu entendre. Je vais le dire parce que voilà, si vous voulez, moi, je veux dire. J'ai publié ce que publiaient les agents. J'ai publié quand la banque, quand la Fed et la BDIC a dit que les banques étaient en train de faire des conneries magistrales, j'ai publié cet avertissement. J'ai publié en mai 2007 ce que vous avez sous les yeux à l'heure actuelle, que la BRI avait donné des avertissements importants sur la valeur des notations des produits structurés. Vous les avez ici. La BRI signalait le risque d'indépendance, le risque de confusion. Et que ce que j'ai écrit à l'époque, j'écrivais l'Orient compliqué, je m'envole avec des idées simples, en pratiquant la bonne approche. La réalité économique l'emportera. L'extension des crédits dérivés à un moment où l'épargne croît a conduit à une accélération de la croissance qui a fait baisser les taux de défaut, comporter une vue exagérément optimiste sur les risques. Ça se retournera tôt ou tard et les gens recevront plein la gueule. Les gens ont reçu les avertissements de la Fed, ils ont reçu les avertissements de la BRI, ils n'ont rien voulu en foutre. Ça nous interpelle, car quand même ces gens-là sont quand même les gens qui gèrent vos retraites. Alors, on essaiera de savoir pourquoi, mais je vais continuer. Le pétrole. Alors, le pétrole, c'est le plus bel exemple de mensonges inouïs répétés pendant plusieurs années. C'est le trait noir, c'est tout simplement parce que, voilà, en 2004, votre serviteur ici écrit « Le pétrole est un puissant véhiculeur de mythes, la vérité plus prosaïque, le pétrole du matin après. » En gros, je disais que tout ce qu'on entend est faux, la notion de pénurie n'existe pas. Dans une économie libre, elle n'existe pas. Elle se régule ou par les cycles. Le cycle, ou tout simplement par les économies de substitution. Voilà, ça n'existe pas. Personne n'a pu l'écouter. Tout le monde s'en fout comme de l'enterrement. Et donc, vous avez entendu les conneries suivantes, qui est que forcément les prix du pétrole ne pouvaient monter qu'éternellement, ce que les gens vont croire en 2005, 2006, 2007, jusqu'à 2008, tiré par ce que vous avez tous entendu et vu, qui était la croissance, la consommation exponentielle du monde, et entre autres de la Chine. Or, les gens qui avaient fait leur boulot, les journalistes, avec leurs deux doigts, ils auraient fait quelque chose d'horriblement difficile, qui est de faire IEA, ce qui les amène sur le site de l'International Energy Agency. Et qu'est-ce qu'ils auraient vu? Que ce qu'ils racontaient était des pures conneries, parce que vous avez à gauche la consommation de pétrole dans le monde, le trait vert, c'est un trait à 1,4%. Comme vous le voyez, vous avez une vraie pointe, c'est vrai, en 2004, ça justifie l'augmentation du prix du pétrole. Ensuite, vous avez été plutôt en dessous de la consommation continuelle. Pourquoi? Parce que la ligne bleue, qui est l'OCDE, est négative depuis plusieurs années. La consommation de pétrole à l'intérieur de l'OCDE est négative.
Certes, les pays émergents ont une croissance nettement plus élevée que les 4%, entre autres, encore effet de la réglementation, parce que les prix étaient subventionnés et qu'on n'a jamais appliqué la liberté des prix. Quant à nos amis chinois, on peut toujours raconter que les exportations augmentaient massivement, mais comme vous avez le graphique à droite qui est tiré des douanes chinoises, vous voyez que depuis 2003, vous avez des hauts et des bas, mais la moyenne est totalement stable. Car imaginez-vous que ces crétins, quand le prix du pétrole est monté, ils sont mis à consommer du charbon, idée qu'aucun économiste n'avait, évidemment. C'est pour ça que la croissance devait être exponentielle. Et nous allons arriver d'ailleurs, enfin, 2000, je vais dire du mal d'un de nos amis à tous, qui est M. Patrick Artus, qui n'arrivant pas à comprendre, à réconcilier d'une seule manière le fait que le pétrole montait et que les statistiques disaient qu'il ne devait pas monter, on a conclu que les statistiques étaient fausses et a donc fait une étude que j'ai saluée comme un extraordinaire travail de polytechnicien pour montrer que les statistiques chinoises étaient forcément fausses, puisque si vous mettiez, si vous calculiez le pétrole nécessaire par unité de production industrielle produite, forcément ça devait être plus élevé. Ça a paru comme un travail fait de bulle, d'ailleurs toute la presse a dit ça avec admiration, moi c'est un petit sucre. Et d'ailleurs, les faits ont été là pour le montrer. Donc, là aussi, c'est un peu embêtant, parce que moi je reviens du Golfe. Or, le fait que les gens aient cru M. Artus, et d'autres, c'est que pendant ce temps-là, pendant les deux dernières années, ils sont endettés comme des bêtes et ont fait des investissements inouïs à Dubaï, immobiliers et hôteliers, parce qu'ils allaient avoir le pétrole à 200 dollars, nom de Dieu. 25 milliards de dollars de pertes dans les 4 derniers mois des promoteurs immobiliers dans la région. Heureusement, les fonds souverains existent, et donc les fonds souverains qui ne seront plus souverains et auront disparu dans 6 mois, ont pu banquer un peu. Il ne restera qu'un seul fonds souverain dans le monde, le fonds français, puisque lui, il est financé par la dette. Je veux dire, c'est un avantage énorme. Tous ceux qui sont financés par des actifs disparaîtront. Mais nous, comme on est financé par la dette, normalement, il devrait monter de manière importante dans les années qui viennent. Bon, enfin, je veux dire, donc, deuxième point. Les marchés ont été manipulés. Alors là, je sais que ça vous paraît stupéfiant de dire une chose pareille. Je rappelle qu'en novembre 2008, entre septembre et novembre 2008, les marchés émergents sont montés 35%. En juillet 2007, le marché interbancaire, je vous l'ai montré tout à l'heure, a sauté. Et donc il était évident que nous allions rentrer dans une crise importante. Moyennant quoi, vous avez entendu tous les jours cette inouïe connerie que puisque le monde industriel se cassait la gueule, eh ben, ceux qui vivaient sur son dos depuis des années allaient nous sauver. Et entre autres, que puisque les Chinois vendaient au monde entier des petits paniers, si les Américains arrêtaient de leur acheter des petits paniers, ils avaient quand même sauvé le monde. Cette thèse qui n'avait même pas l'ombre d'une crédibilité, en novembre 2007, je montre, si vous voulez, ce qui paraît évident, que les marchés émergents, ça n'existe pas. Il y a ceux qui devaient la hausse, leur prospérité, à la hausse des matières premières et du pétrole. Si vous aviez une crise dans le CDE, ça allait baisser fortement. Vous serez dans la mouise. Ce qui est évidemment arrivé. Nos amis russes, aujourd'hui, sont dans une situation épouvantable. Et M. Chavez aussi, ce qui me fait une peine énorme. Les comptes extérieurs déficitaires. Tous les pays qui ont des comptes déficitaires. Par exemple, prenons l'exemple de la Turquie. La Turquie avait de forts comptes déficitaires extérieurs. Mais c'est financé par les entrées massives de nos capitaux à nous. Bien évidemment, dès que ça va mal chez nous, les premières personnes qui ont coupé le crédit, c'est les Turcs. Parce que vous n'avez pas coupé. Avant de couper le crédit de General Electric avec le président duquel vous jouez au golf, vous commencez par couper les crédits des Turcs parce que vous ne les connaissez pas. Donc bien évidemment, les pauvres Turcs ils en ont, et les Brésiliens en sont plein la gueule. C'est normal, le crédit crâne, vous commencez par couper les crédits des gens qui sont loin. Puis il y avait ceux qui dépendaient de la demande extérieure, nos amis chinois. Bon, c'est pas si les Américains arrêtent d'acheter des produits, comment eux est-ce qu'ils peuvent acheter des produits? C'est incompréhensible. Mais comme je le disais, je n'espère pas vous convaincre. Car vous avez, c'est pour ça que j'ai mis la phrase de Proust que j'avais utilisée à l'époque, c'était impossible de convaincre les gens. Pourquoi? Et là, vous avez un vrai problème. Pourquoi? Parce que l'ensemble des gens ont cru un escroc absolument colossal qui s'appelle Goldman Sachs. Goldman Sachs est un escroc qui a trois fois fait son crime en l'espace de 18 mois. Pendant des années, M. Goldman Sachs a vendu des crédits structurés. Et comme il est plus intelligent que les autres, lui, il n'a pas perdu d'argent. Parce que pendant qu'il les vendait à ses clients, lui, il se mettait vendeur à découvert du produit. Ce qui explique pourquoi Goldman Sachs est la seule banque qui n'a pas sauté. Les autres ont été cons, mais honnêtes. Ils ne savaient pas que ce qu'ils vendaient les ruinerait. Goldman Sachs le savait, parce qu'il a vendu à découvert, c'est ce qui fait qu'il est le seul à ne pas avoir eu les pertes. Quand il n'a plus été question, à partir du mois de juillet 2007, de vendre des produits structurés, il faut bien que tout le monde vive, il a donc vendu le concept de ce decoupling. Le voici, le concept de decoupling, la condition de l'avoir derrière, voilà, le concept de decoupling, c'était les BRICS. Vous avez tous entendu parler des BRICS, c'est-à-dire que vous foutez dans un seul paquet le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, et vous entendez que c'est une entité commune. C'est une vraie imbécilité. Chacun de ces pays a sa propre logique de développement. Les uns dépendaient des matières premières, les autres dépendaient du crédit, les troisièmes dépendaient du fait que les Américains achètent des petits paniers, ainsi de suite. Les gens qui inventent ça sont Goldman Sachs. Goldman Sachs lance ce truc et vend des trucs, et du coup les marchés émergents, regardez, là vous avez sous les yeux, du moment de la crise, c'est-à-dire en juillet 2007, jusqu'en novembre 2007, monte de 35% en ligne verticale. Comme si l'entrée dans la crise du monde occidental justifiait un taux de croissance supérieur des marchés émergents. Bien évidemment, ce truc explose un jour. Et que font nos amis de Goldman Sachs? Ils vous écrivent un grand truc qui est en février 2008, qui dit, bon, il serait peut-être temps de revoir un peu le concept du découpling, donc on devrait étudier le concept du recoupling. Mais on en rit, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Et qu'est-ce qu'ils inventent à ce moment-là? J'ai oublié de vous le dire. C'est eux qui ont inventé les premiers le concept du pétrole à 200 $. Puisque vous ne pouvez pas vendre de produits émergents, vous allez vendre du pétrole. Et le pétrole à ce moment-là passe de 90 $ à 140. Bien. Donc, j'en arrive à la conclusion, j'ai fini. En tant qu'économiste libéral, je suis bien obligé de constater que, premièrement, les marchés n'ont pas reçu une information pertinente, et que le fait de ne pas avoir reçu une information pertinente, ils n'ont pas fait leur rôle, qui est le rôle hayekien par excellence, sur lequel nous sommes tous, sur lequel nous avons le fondement de nos croyances, qui est l'avantage des marchés. C'est par la rencontre continuelle de tous les opérateurs dans le monde d'envoyer aux agences économiques une information pertinente réelle. Mais on oublie que depuis des années, les marchés sont entre les mains de connards finis qui s'appellent les traders. Je peux le dire en termes de... Puisqu'il se fait qu'une des plus grandes tables de trading, puisqu'elle a été célèbre entre autres par une affaire non négligeable d'une banque qui a perdu beaucoup d'argent, sont mes clients. Et qu'ils m'ont demandé de venir dans leur table de trading, je viens les voir régulièrement, pour faire une formation économique et financière à leur troupe, puisque les gars, vous ne pourrez pas le croire, je suis sûr que vous ne le croirez pas, mais je veux l'avoir sur mon... La première intervention que j'ai faite auprès de ces grandes banques, auprès des équipes de traders, c'était d'expliquer les relations qu'il y avait entre les taux d'intérêt, la croissance économique et les marchés boursiers. Vu qu'ils ne le savaient pas, puisque les gars avaient simplement fait des écoles statistiques, ils avaient tous des modèles, et qu'ils faisaient n'importe quoi sans aucune compétence. Moyennant quoi, vous avez ces bulles absolument extraordinaires, et comme ils représentaient 4 fois, 5 fois le volume sur les produits dérivés de ceux que l'économie réelle demandait, on le sait bien, lorsque vous aviez besoin de vous couvrir des risques de change, on est revenu d'ailleurs à ces niveaux, c'est 200 milliards de dollars par jour, entre les gens qui ont vraiment besoin de se couvrir de change. Vous êtes arrivé à 3 000 milliards de dollars par jour, à un moment, c'est-à-dire 15 fois plus, dont 95% étaient donc faits uniquement par les traders entre eux. Autant vous dire que les informations envoyées sur la vraie valeur du franc et du dollar n'avalaient pas un clou. C'est pour ça qu'en même temps que vous entendiez que le pétrole devait aller à 200 $, l'euro devait aller à 2. C'est l'époque complètement des fausses informations. Donc c'est très embêtant pour nous. Et alors moi je me suis dit en fin de compte, la conclusion de Galbraith dans son petit truc est quand même assez drôle et je l'ai trouvé très très bonne. Il dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose quand il y a des bulles? Il dit, la chute périodique d'un démon, c'est pas un trait merveilleusement séduisant du capitalisme, que je trouve assez drôle de comme phrase. Il dit, et en fait, il n'y a rien à faire. Vous voyez, c'est le second paragraphe. Cependant, non, au-delà d'efforts pour soit mieux compris la tendance à spéculation et le processus spéculatif, il n'y a probablement pas grand-chose à faire. Une réglementation déclarant hors la loi la crédibilité financière et l'euphorie collective serait certes utile, mais d'une application pratique difficile. Voilà, en termes clairs. Le seul remède, ce serait un septimisme renforcé qui associerait résolument l'optimisme trop affiché à la bénéficialité probable. En termes clairs, en gros, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a aucune chance d'empêcher la formation de bulles. La seule chose qu'on peut espérer, c'est soi-même de faire preuve de suffisamment de bon sens pour être embarqué. Je trouve que cette phrase est très très juste. Néanmoins, comme j'ai une proposition à faire, j'en ai quand même une. J'ai constaté, premièrement, que les banques de côté n'avaient pas fait de bêtises. En France, les banques de côté n'ont pas de pêche. Deuxièmement, que les banques de côté appartiennent à la propriété. Et je pense que là, nous avons, nous, les libéraux, une confusion qu'on peut sortir. Puisque, malgré le problème du hasard moral, nous voyons bien qu'il y a l'obligation de la puissance publique d'intervenir quand les banques sautent. Il n'est pas normal que le statut de banque soit une société anonyme. Je pense que les banques devraient en commander. Je pense qu'il devrait y avoir un équilibre entre le risque des gérants du système financier. Sinon, la célèbre phrase de Chuck Price, le président de Citicorp, qui dit Alors quand le diable a fait beaucoup d'années, il dit, vous comprenez, tant que la musique joue, il faut se lever et danser. Eh bien, les gens s'en foutent quand, en fin de compte, ils ne sont pas sur le Titanic qui va couler. Mais si c'est vous-même, le Titanic vous appartient, vous êtes vachement plus grave. C'est pour ça que vous n'avez pas trouvé de grand cynique, ni chez les Rochines, ni à l'enfant de Carnaval, ni je ne sais quoi. Parce que c'est leur fric. Tandis que je vais prendre un exemple bien précis qui est le bouton. Je n'ai aucune méchanceté contre M. Bouton, d'autant plus que vous avez compris que la société générale est un des clients. Mais néanmoins, vous êtes bien obligé de vous dire que M. Bouton a eu pendant des années comme idée le fait d'échapper à des OPA. Quelle est la meilleure manière pour échapper à une OPA? C'est d'avoir une rentabilité de ses capitaux investis tellement forte qu'aucune personne n'a envie de faire une OPA parce que vous n'y arriverez pas. Pour avoir une forte rentabilité, il faut donc augmenter les activités à risque. Et donc il n'est pas anormal qu'il y ait eu des escroqueries à la société générale. Parce que la pression que vous mettez sur vos trous pour avoir une rentabilité accrue conduit forcément à un accident de route. Et donc ma conclusion, c'est que puisqu'on ne peut pas laisser le système financier totalement, on est obligé de le sauver au dernier moment, sinon les conséquences sont énormes, il faudrait que nous ayons un système, que le système de société anonyme ne puisse pas réguler les banques, que les dirigeants soient en responsabilité. Et c'est peut-être vrai pour toutes les entreprises d'ailleurs. Mais enfin, ceci est un autre débat, mais pour les banques, ça pourrait être quelque chose. En tout cas, ma conclusion, je n'en ai pas trouvé d'autres réformes vraiment importantes que celle-là. Parce qu'elle rejoint tout ce qu'on veut, c'est la responsabilité individuelle. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini. Et maintenant...
Voilà. Temps pour manger, pour grignoter quelques cours qui sont là. Je suis certain qu'il y a pas mal de questions qui se sont posées, mais on a la chance d'avoir trois professeurs de finance parmi nous. Je vais demander à Florin et à André de venir pour faire un petit commentaire, de te donner un peu leur réaction par rapport à ton exposé, aux idées que tu as lancées, de manière à lancer la discussion parmi nous. Florent, tu veux dire quelque chose? Et puis on a aussi Yann Bonneau qui est revenu parmi nous et qui est intéressé par tout aspect de comment tu dis.
J'apprécie beaucoup le déroulement de ton raisonnement. Je ne vais pas du tout le reprendre. Il faudrait l'étudier dans le fond pour éventuellement avoir des objections. Donc je vais simplement faire quelques remarques de détail. La première, c'est que je confirme ce que tu disais sur les traders. J'ai eu l'occasion d'en former, d'en discuter, de les voir évoluer. Tout ce qu'ils savent faire, c'est acheter et vendre. C'est à peu près là que se limite leur horizon. Mais la question qui se pose, c'est comment se fait-il que dans une économie privée, on laisse une telle liberté à des gens aussi incompétents? Donc la question revient sous forme de boomerang à nous les libéraux. Bien entendu, je la laisse sans réponse. Une autre remarque concerne ce que tu as dit sur la responsabilité des agences de notation. Bon, il est évident puisqu'ils ont, comme déjà lors de la crise asiatique, raté, n'ont pas donné les bonnes alertes au bon moment. Cependant, je pense à un de mes amis qui a une société d'intermédiation financière en France et les représentants d'Access International, c'est-à-dire de MEDOC, sont allés le voir il y a 6 ans, il y a 3 ans et à chaque fois, ils ont montré les merveilles de leur produit, il s'appelle LuxAlpha. Et après avoir étudié le dossier, cet ami disait « mais c'est pas possible, les lois fondamentales de la finance font qu'il n'est pas possible qu'un produit ait le risque, c'est-à-dire la volatilité d'un fonds monétaire et qui rapporte ce que rapportent des actions lorsqu'elles connaissent de bonnes années. Donc ce produit, il y a quelque chose qui ne va pas, moi je ne le commercialise pas. » Alors la même question se pose à propos des risques, des dérivés de crédit, de ces produits qu'on coupait en tranches dans tous les sens et dont émergeaient des morceaux qu'on qualifiait de triple A alors qu'ils rapportaient non pas ce que rapportent les triple A, les obligations du Trésor, mais ce que rapportent les produits MEDOF ou presque. Donc il y a une incompétence, une impossibilité totale. Donc la responsabilité, là aussi, est à chercher dans les banques. Alors, et de nouveau, le boomerang nous revient. Ces banques font partie du système privé. Comment pouvait-elle croire que cela était possible? Donc, je crois que les problèmes vont bien au-delà des agences de notation. Et enfin, une deuxième remarque, la dernière, sur Greenspan. Alors, je ne sais pas ce que Greenspan a réellement avoué ou n'a pas avoué, mais je constate quand même que de 2002 à 2004, à peu près, il craignait une désinflation trop forte. Il voulait gonfler l'économie. Il a baissé les taux d'intérêt à 1% en réel. Donc, on avait à ce moment-là des taux à court terme réels négatifs. Ce qui a provoqué une bulle immobilière aux États-Unis. Donc le mécanisme est facile à démonter, qui n'avait rien à voir, je crois, avec l'épargne excédentaire au niveau mondial. Donc il se situait uniquement aux États-Unis et uniquement du fait de cette baisse aberrante des taux d'intérêt. Friedman aurait voulu que les... faute d'avoir des... Puisqu'on était dans un monde avec une banque centrale, il fallait que les banques centrales soient dirigées de façon non discrétionnaire, mais automatique. De son vivant, il n'a pas trouvé comment, mais un économiste qui s'appelle John Taylor a trouvé une formule donc, qui explique ce que devrait être le taux d'intervention, le taux à court terme, dans différents pays, compte tenu d'une part de l'inflation, de l'autre part de l'écart qui existe entre la production réelle et la production constatée. Et si on a donc, c'est un moyen de rendre la gestion du banque centrale non discrétionnaire mais automatique. Et si on applique la formule de Taylor, on s'aperçoit que donc, ce qu'a fait Greenspan entre 2001, 2002 et 2004 était assez monstrueux, donc devait avoir des réactions. Et la réaction est venue lorsqu'il a monté les taux et que ça a fait éclater la bulle immobilière. Donc je vois le problème situé beaucoup plus strictement à l'intérieur de l'Amérique et avec la responsabilité de Greenspan tout de même. Alors, je voudrais rajouter peut-être un dernier point en conclusion, c'est que le fait que ces produits toxiques, donc ces dérivés de crédit découpés dans tous les sens, dispersés à tous les azimuts, aient pu avoir une telle impact négatif, est aussi le résultat de mauvais calculs des gens qui ont fabriqué ces produits, parce qu'ils ont... ce sont des réalisation mathématique formidable. Le seul problème, c'est qu'on prend de mauvaises distributions de probabilité. Donc, le produit correspond à ce qu'on a mis dedans, comme on disait dans le temps pour l'informatique, garbage in, garbage out. Et en plus, il tenait pas compte d'un risque de contrepartie qui s'est révélé absolument déterminant. Donc, il y a là aussi un problème qui se situe à l'intérieur du système privé. Et je ne sais pas s'il pourra être résolu simplement par une question de propriété des banques. Voilà quelques remarques un peu en ordre dispersé qui n'enlèvent rien à la qualité des explications de Marc.
Je vous signale que Laurent a accepté de venir le 24 mars, c'est un mercredi. On fera ça à l'heure du déjeuner, hein, je crois. On a prévu à l'heure du déjeuner pour nous parler du mythe du New Deal. Alors, la vérité sur l'histoire, la véritable histoire du New Deal, qui est tout à fait intéressante et qui révèle pas mal de choses. André, est-ce que tu as quelque chose à dire?
Oui, j'ai pas mal de choses à dire. Je vais d'ailleurs rejoindre en partie ce que a dit Flora. Bon, on a passé beaucoup de la présentation, surtout microéconomique, de Marc, la situation des mécanismes bancaires, la dispersion du risque, l'effet bancaire, tellement. Tout le monde s'est foutu du risque dans la mesure où personne n'avait l'impression de les supporter. Mais je crois que votre présentation néglige un peu trop le côté politique monétaire, l'évolution monétaire. On avait parlé 3,5 secondes, et puis pouf, c'est pas ça qui est important. Je trouve, moi, que c'est ça qui est important pour beaucoup. Car s'il est vrai que bon, l'excédent chinois, le saving glut, l'excès d'épargne peut avoir joué un rôle, il faut, qui est un rôle important, il faut se demander pourquoi il y a eu ce genre de déficit. Est-ce que la politique monétaire américaine n'est pas pour beaucoup responsable de ce genre de déficit? À partir du moment où il y a une politique extrêmement expansionniste, comme l'a dit Florent, avec des taux d'intérêt réels négatifs pendant 3-4 ans et qui sont assez très bas encore pendant plusieurs années, entre 2020 et 2005 en gros, c'est évident que ça stimule pour beaucoup les importations américaines, donc ça stimule les exportations chinoises et le sud du Chine. Je crois qu'il y a une relation de cause à effet qui est sans doute très importante et la politique monétaire américaine, et la BCE aussi, je vais en dire quelques mots tout à l'heure, la politique monétaire américaine a sans doute, est au cœur sans doute de ces phénomènes. Il y a des liquidités énormes qui ont été injectées dans le système bancaire américain et même dans d'autres systèmes bancaires, et il fallait bien que ces pauvres banquiers utilisent cet argent, d'où l'innovation, d'où tous ces beaux produits structurés, tricrisés, CDO, etc., qui sont engouffrés là-dedans, c'était formidable, ils les ont même rendus encore plus sophistiqués. Mais s'ils n'avaient pas eu ces liquidités, ils n'auraient pas pu le faire. C'est comme lorsqu'on parle d'inflation, moi j'ai tendance à faire l'analogie. Lorsqu'on explique l'inflation, le macroéconomiste que je suis, explique l'inflation, qui ne dit pas « Ah, c'est parce que les entreprises augmentent leurs prix. » Bien sûr que les entreprises augmentent leurs prix pour qu'il y ait une augmentation au niveau général des prix. Il ne dit pas non plus « Ah, c'est parce que les consommateurs consomment trop. » Ou « Ah, c'est parce que les banques ont trop de l'entreprise. » Il dit « Bon, regardons, telle la théorie économique, qu'est-ce qu'elle a à dire en lien à l'inflation. » On sait, là, je crois qu'il y a un énorme consensus pour les points. À moyen terme, au moins, l'inflation dépend pour beaucoup de la croissance monétaire. À moyen terme. Donc, on dit que si on veut contrôler l'inflation, si on veut expliquer l'inflation en termes macroéconomiques, il faut comprendre l'évolution de la croissance monétaire et à partir de là aussi de la politique monétaire. Et on ne cherche pas des coupables, des méchants. C'est pareil dans ce cas-là. C'est vrai que les mécanismes de transmission font que les banquiers ont fait toutes sortes de conneries, comme vous l'avez dit, ou du moins à ce moment-là, pour eux, ce n'est pas une connerie, c'était un moyen formidable, si vous croyez-il, du moins, d'avoir des rendements très élevés sans avoir à en supporter le risque. Je crois qu'il faut regarder beaucoup plus du côté de la politique monétaire. Je pense qu'il y a eu d'énormes erreurs, donc elle a été beaucoup trop extensionnée, que Greenspan a une lourde responsabilité, contrairement à ce que vous avez dit. La BCE, elle a suivi un peu l'équipe de politique, mais avec plus de modération et avec un décalage d'ailleurs, un décalage de 1 à 2 ans dans le temps, mais aussi depuis 2004, il y a une accélération très nette de la croissance monétaire. On est passé de quelque chose comme 5-6% l'an à 12%. Il y a encore peu de temps, en l'été dernier, on était à 12%. Donc lorsque Trichet parlait d'inflation, il avait de bonnes raisons de le dire. C'était pas du tout absurde ce qu'il disait. Je rappelle quand même qu'il y avait 4% d'inflation au mois d'août dernier. Bon, c'est vrai qu'avec la chute du prix du pétrole divisé par je ne sais combien, par 4 à court terme, ça fait baisser le niveau général des prix, ça fait baisser la statistique. Ça ne veut pas dire que l'inflation de fond a véritablement baissé. Et à ce sujet-là, parce qu'on parle de credit crunch aussi, moi je dois avouer, je ne comprends pas. Le credit crunch, je ne vois pas où il est. Tout le monde en parle, c'est intéressant, j'en ai parlé également. Si on regarde les statistiques, du moins jusqu'à la fin de l'année 2008, il y a un ralentissement de la croissance des crédits. Des crédits aux entreprises, des crédits à la consommation. Il y a un ralentissement, mais on partait de très haut. Aux États-Unis, par exemple, il y a moins d'un an, on était à 20% long de croissance des crédits aux entreprises. En Europe, on était en gros dans les 10-12% dans la zone euro. Ça ralentit maintenant. Ça ralentit. En Europe, on est dans les 8%, apparemment, une dernière statistique, du moins en gros, en décembre. Et aux États-Unis, bon, on est aussi toujours dans ces ordres de grandeur. Bon, alors est-ce que dernièrement, au cours du mois de janvier, par exemple, il y a eu un ralentissement plus fort? Je ne sais pas très bien, moi je n'ai pas vu ça. Trichet a été interviewé l'autre jour, et il suggérait qu'en effet, il aurait pu y avoir, mais j'en sais rien, à voir. En tout cas, credit crunch, moi je ne vois pas. C'est-à-dire baisse du montant des crédits. Il y a baisse de la croissance des crédits, mais elle était nécessaire quand on avait eu une politique monétaire beaucoup trop expansionniste et qui ne pouvait déboucher que sur des problèmes qu'on a eus et des problèmes d'inflation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'ont fait les pouvoirs publics? Ben, ils ont soigné le malade qui s'était bourré la gueule, passez-moi l'expression, la veille, en lui filant quelques whisky supplémentaires le lendemain, c'est-à-dire en suivant une politique monétaire, alors là, non pas expansionniste, mais explosive. Tu vois, en potentiellement. Elle n'est pas jusqu'à maintenant. Pourquoi? Je vais montrer un peu le multiplicateur tout à l'heure. Parce que les banques ont maintenu énormément de réserves. Leurs réserves ont explosé. C'est-à-dire, elles ne prêtent pas tous ceux qu'elles pourraient prêter. Mais si un jour, la confiance revient, et j'espère que ça va revenir assez rapidement, Mais si elle se met à prêter comme ça, moi je peux vous dire qu'on va voir l'inflation ce qui va se passer. Alors une hyperinflation formidable. À moins que, tant la Fed que la BCE suivent la politique inverse, ce que je pense qu'ils feront. Mais ça ne sera pas évident à faire. Il est plus facile de créer des liquidités que de les détruire, pour diverses raisons, à la fois techniques et politiques. Et économique, fonctionnement du marché public. Donc, je crois que là, on est. Je ne sais pas très bien ce qui va se passer, pour ma part, mais lorsqu'on parle de déflation, on entend toujours, moi je crains plutôt l'inflation. Mais bon, c'est mon vieux côté monétariste, comme ça ne va pas. Mais fondé sur les faits aussi, ce sont des faits, ça. Que va-t-il se passer? Je n'en sais rien. J'espère que la Fed, comme la BCE, parce que la BCE se relâche un peu aussi, depuis le mois de novembre, décembre, a relâché. Voilà, un peu mes quelques réactions, j'en aurai d'autres.
Alors, je voudrais répondre sur deux ou trois éléments très importants. Je suis en total désaccord avec 90% de ce que vous avez dit. Je vais le dire très rapidement pourquoi. Vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas parlé du problème monétaire, puisque tout ce que j'ai voulu montrer, c'est que justement, cette fois-ci, la différence fondamentale n'avait pas été la transformation bancaire, mais, et ceci n'a rien à voir avec la politique de l'épargne, c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer comment cet excès d'épargne était venu, non pas de création monétaire, mais du fait que vous avez eu, s'il n'y avait pas eu le contrôle des changes en Chine, vous n'auriez pas eu de bulle immobilière, tout simplement
parce que... Si il y avait pas eu de politique monétaire aussi folle aux États-Unis, il n'y aurait pas eu cette
bulle
de produits chinois qui a créé le déficit.
Mais pas du
surplus formidable.
Pas du tout. Non, n'importe quoi, on ne va pas avoir beaucoup de débats, mais en tout cas, il y en a un qui techniquement mérite vraiment d'être apuré. Vous ne pouvez pas dire, parce que la statistique n'est pas bonne, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une augmentation des crédits, tout simplement parce que la raison, et c'est extraordinaire que Trichet en soit pas rendu compte, parce que la Fed a signalé depuis longtemps, la raison de l'augmentation des crédits statistiques est due tout simplement par la remontée dans les bilans des banques de crédits qui étaient faits par leurs instruments en dessous, ce qu'on appelle les SIV, qui n'étaient pas comptabilisés dans les crédits, et le fait qu'ils ont été obligés de les reprendre a fait qu'alors qu'ils ont diminué leur distribution de crédits, les encours de crédit ont donné, de manière purement statistique, l'idée qu'ils étaient en croissance. Donc, la diminution des crédits est une réalité, elle n'est pas niable. Et la statistique ne la fait pas apparaître, tout simplement parce que vous avez fait réapparaître les anciens crédits qui étaient dans les véhicules, les SIV. Donc ça, je veux dire, je ne peux pas accepter la thèse quand vous dites qu'il y a une augmentation de la masse monétaire due par une augmentation des crédits. Ceci est un fait qui n'est pas réel.
C'est les statistiques.
Mais oui, mais c'est les statistiques, évidemment. Si vous n'aviez pas dans votre bilan avant des crédits qui étaient faits par des instruments qui n'étaient pas comptabilisés,
ils ont
regardé
le plus près.
C'est énorme.
Donc, ils ont à regarder plus près.
Ouais, ouais.
Ok, le problème est posé. J'ai mon ami Timolo qui veut intervenir.
Oui, alors on peut toujours accuser la folie des uns, l'escroquerie des autres, la mauvaise information des journalistes, des hommes politiques, etc. Pour, avec plusieurs clauses, essayer d'expliquer un phénomène qui paraît unique. D'autre part, ma deuxième remarque serait de dire que les excédents n'ont jamais posé de problème. Les excédents d'épargne n'ont jamais posé de problème. On l'avait au moment du premier choc pétrolier, chacun s'en souvient, les problèmes d'excédents de pétrodollars, c'était un faux problème, parce que les pétrodollars ne pouvaient pas ne pas être recyclés dans la machine. Et de même, les excédents japonais ou les excédents allemands étaient recyclés d'une certaine manière, d'une manière automatique. Il n'y avait pas un problème d'excédent, il y avait un problème plus fondamental, c'était le statut du dollar ou le statut du Deutsche Mark ou du Yen. Non. Mais j'en viens à ce que vous disiez, c'est que les marchés n'ont pas transmis les informations, qu'il y a eu un défaut d'informations et que les gens ont été trompés, qu'il y a eu des erreurs d'interprétation, etc. Je pense que vous avez soulevé le problème tout à la fin de votre exposé. Tout à la fin de votre exposé, une sorte de on a vu le bout du tunnel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le vice du système, qui ne met pas en jeu les acteurs, parce que les acteurs maximisent leur profit avec les données qu'ils ont. Le vice du système, c'est la banque centrale. D'ailleurs, vous l'avez dit pour la Chine d'une certaine manière, mais vous ne l'avez pas assez dit pour la Banque Centrale Européenne ou la Banque Centrale Américaine. Le vice du système, c'est que la Banque Centrale, l'existence même de la Banque Centrale, introduit dans le système un hasard moral, c'est-à-dire que les banques, et derrière les banques, les agents économiques, prennent des risques qu'ils ne prendraient pas s'il n'y avait pas de banque.
Je suis d'accord avec vous, certainement.
Donc, Et donc, le problème, c'est que si vous dites ça, vous remettez en cause le pompier lui-même, qui est une nature en âme. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui ne fait qu'aggraver la crise, on le voit bien, et ne fait que retarder la sortie de crise. Parce que tout ce qui est pris est pris sur des influences politiques, d'hommes politiques, aux abrois, et qui ont peur, et qui ont peur pour eux-mêmes, et qui prennent des mesures pour sauver leur peau, mais au détriment des citoyens. Mais je reviens au vice fondamental, c'est la Banque centrale. Évidemment, si vous commencez à dire que c'est à cause des banques centrales, vous remettez en cause un siècle, même deux siècles d'histoire monétaire européenne, ou un siècle des États-Unis, et vous êtes obligé de penser à un autre système. Alors vous avez à la fin de votre exposé, vous avez parlé du statut même des banques. Il faut arrêter que ces banques soient des sociétés anonymes, il faudrait qu'elles soient en commun. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça ne changera pas fondamentalement le problème si vous avez au-dessus de ces banques propriétaires. C'est vrai que les banques privées, notamment privées, convertibles, donc on fait moins de bêtises qu'on n'a pas fait. Et puis, elles n'étaient peut-être pas assez grosses pour leur appliquer le public tout fait. Mais il n'en reste pas moins que, même dans ce système, il y aurait tout de même un risque que les bulles ne viennent que des banques centrales. Il n'y a pas d'autre cause. Pourquoi voulez-vous que les gens se trompent à ce point? Ils ne se trompent pas. Ils jouent leur jeu.
Je suis complètement d'accord avec votre analyse. Simplement, le problème majeur que nous avons, c'est que nous sommes dans la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est absolument... Enfin, quand je dis complètement d'accord, oui, en tout cas, il n'y a aucune espèce d'opposition avec l'idée que, bien évidemment, à partir du moment où vous avez une banque centrale qui va réguler l'ensemble, la probabilité qu'il puisse y avoir la probabilité de la déresponsabilisation des acteurs est extrêmement élevée. Donc c'est ça où ils disent. Mais nous n'avons pas, malheureusement, nous ne sommes pas dans un monde où nous pouvons reconstruire un système selon ce qu'on pense qui fonctionnerait bien. Et c'est pour ça que quand même, je ne peux pas, en tout cas moi, je n'adhère pas à la thèse qui est que l'intervention aujourd'hui serait mauvaise, car ma thèse, elle est que l'État doit bien réparer les dégâts qu'il a causés. Car en fin de compte, à partir du moment où la plupart de nos malheurs viennent justement, ce que j'ai essayé de montrer, d'excès de réglementation, de contrôle d'échange qu'on a accepté, d'erreurs de manœuvre, et même, si je ne suis pas d'accord avec l'analyse qui a été faite précédemment, mais acceptons-en l'idée, et même d'erreurs de politique monétaire, je ne vois pas pourquoi vous allez demander aux privés au jour d'aujourd'hui de connaître une dépression abominable. Car ne nous faisons pas d'illusions. Si vous ne sauvez pas le système bancaire, je vous assure que vous mangerez tous des racines dans deux ans, je suis convaincu. Je ne vois pas pourquoi je ne vais pas demander à l'État de réparer les dégâts qu'il a causés par un mauvais système. Ensuite, on peut toujours espérer, dans un monde parfait que j'aimerais bien voir venir, mais que malheureusement, une longue expérience nous a appris qu'il n'existait pas, que nous arriverions à remettre en place un mécanisme sain. J'en rêverais, j'en suis moins sûr qu'il arrive, mais au jour d'aujourd'hui, pour reprendre cette expression affreuse, je n'ai pas d'autre choix que de demander, puisque par l'ensemble de vos réglementations, règles et fonctionnements, vous nous avez foutu dans un pétrin épouvantable, dont il est illusoire, et totalement, et je ne peux pas une seule seconde accepter personnellement de laisser la moindre ambiguïté sur cette question, sur ma position personnelle, dont il est totalement illusoire de penser qu'aujourd'hui, le privé pourrait, de lui-même, aujourd'hui, réparer les pots cassés. C'est une totale impossibilité. Il n'est qu'à voir l'angoisse, justifiée ou non justifiée, de l'ensemble des opérateurs financiers et agences économiques. J'ai voulu vous montrer cette horrible perversion qui veut qu'aujourd'hui, chaque fois que la bourse baisse, des dirigeants d'entreprises ne regardent même pas le cash flow qu'ils font dans leur activité, ils meurent de trouille, point final, et arrêtent toute activité tétanisée parce qu'ils ont perdu 90% de leur portefeuille. C'est une réalité, celle-ci. On ne peut pas fermer les yeux. Ce n'est pas parce que l'état de guerre est un état affreux et qu'on préfère tous vivre en paix qu'il faut être les yeux fermés quand les bombes vous tombent sur la gueule. Et c'est ça qui nous arrive au jour d'aujourd'hui. Vous ne pouvez... Alors ensuite, qu'après la guerre, vous disiez comment on peut rétablir un système dans lequel il n'y aura plus de guerre, c'est vachement bien. Mais quand vous êtes au milieu d'un champ de ruines et que les bombes vous tombent sur la figure, vous allez voir, qu'est-ce que je dois faire pour éviter que ça me tombe dessus, encore pire.
Excusez-moi, c'est le moment où jamais de poser le problème.
Pour la reconstruction. Pour la reconstruction.
Mais voilà. Je vais passer la parole à une autre vedette de BFM, notre amie Sophie de Menton.
Oui, alors moi je vais être totalement basique, mais je voudrais vous poser les vraies questions. D'abord, je suis comme les chefs d'entreprise du mouvement, par exemple, que je représente, je ne parle même pas des auditeurs de RMC, ils auraient compris ici, je pense, 5% de ce qui a été dit autour de cette table. 5% à peu près, je pense peut-être plutôt moins. Et je me fais engueuler par Madeleine, par tout le monde, parce que je parlais vaguement de capitalisme financier en posant des questions depuis 5-6 ans, parce qu'on m'avait beaucoup utilisé le terme. Et je disais, mais tu sais quand même, le capitalisme financier, je recevais des barres, on me disait, tout ça ne veut rien dire, le capitalisme est par définition financier, tu nous casses les pieds, ça n'a pas de sens. Et je voyais indéfiniment un écart absolu entre, alors appelons-le autrement, une ingénierie que vous venez de décrire, qui est devenue, mais délirante. C'est-à-dire que, est-ce que le vrai sujet est pas de dire, est-ce qu'on peut monstrueusement simplifier? Je veux dire, à partir du moment où vous avez une telle complexité dans tous les produits, à tout niveau, je veux dire, les banques, les États, les banques centrales, les produits, etc., si ça continue comme ça, comment voulez-vous que les acteurs ne fassent pas de conneries énormes? Je veux dire, moi, il me semble que ce système va forcément sauter, je pense pas que... Je ne pense pas qu'on puisse reconstruire quelque chose. Et pour revenir à ce que vous disiez, vous avez amusé beaucoup vos chiffres, je vais vous dire, on a au total quand même, ça fait à peu près, si je calcule avec les fédérations, etc., on doit avoir, je ne sais pas, 6 000 chefs d'entreprise plus ou moins adhérents à éthique, à travers les fédérations, etc. Je peux vous dire un truc bête, c'est qu'ils n'arrivent pas à emprunter, point.
Oui. Alors maintenant, ils n'arrivent pas à emprunter. C'est pourquoi on ne peut pas nier, c'est
ça. Alors, vous pouvez même m'expliquer ce que vous voulez.
D'un fait.
L'histoire de René Ricard.
Mais on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation des crédits. Les gardes ne font pas un centime.
Pourquoi les banques ne prêtent pas? Pourquoi ne prêtent pas?
Alors, moi, je vais vous dire ce qu'elles font, les banques. Il y a un truc bien pervers.
Pas de réduction de leur contrat.
Un truc marrant. C'est bon, nous a filé un médiateur, René Ricard, que ce soit éthique ou forcément banquier. Alors, le médiateur, c'était un gag absolu. C'est-à-dire que on demande un crédit, il intervient, c'est la Banque de France qui, à ce moment-là, est chargée de s'occuper de ça. La Banque de France, il y a une caissière derrière un truc, elle n'a jamais bossé depuis 10 ans, elle part en vacances, elle a des RTT, des congés, etc. Elle a un mécanisme, on parle à quelqu'un qui est dans un autre univers, une autre planète. Et alors à ce moment-là, on essaie de voir ce qui se passe. Généralement, il faut à ce moment-là, le médiateur dit, bon, bah, très bien, on va faire appuyer ça par Oseo. Alors, la banque annule le crédit qu'elle avait avec une entreprise, et l'entreprise avait obtenu un crédit, on lui annule aujourd'hui. Parce que le type va aller voir le médiateur, va aller voir Oseo. Oseo va dire « Ok, j'aide ». Et la banque va redonner le crédit qu'elle avait avant beaucoup plus cher. Voilà le mécanisme que je vous donne aujourd'hui du médiateur Oseo. C'est une espèce de banque du PME.
La banque du PME, c'est l'ancienne.
Donc,
c'est
des PME.
C'est des surprimes
qu'on paye. Alors, je voulais vous dire que simplement, il y a maintenant un gap infranchissable entre ce qui est passionnant. J'écoute Marc, moi, à la radio aussi, le dimanche matin, là, dans le samedi et le dimanche, parce que comme ça, comment il passe, je comprends, la deuxième fois, je comprends un peu mieux. Et donc, il y a un monde. Comment va-t-on arriver à rapprocher un monde, si vous voulez, des patrons, puis même des gens doués, qui ont plus personne, qui sont en fait des entrepreneurs formidables, qui ne comprennent pas un mot de ce qui peut se passer, qui sont à milliards. Alors, est-ce que ces produits, Marc, est-ce qu'il ne faut pas supprimer tout ça? Je ne sais pas, moi, j'ai une question blonde. Autrefois, on appelait ça candide, maintenant, c'est les blondes.
On n'a pas besoin de les supprimer, ils vont enfin disparaître tout seul. Non, parce que quand même, la main visible du marché existe. L'éclat qu'elle donne sont très fortes. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas voulu. Les gens sont entêtés dans l'erreur. Donc, la main visible du marché, ça serait obligé de vous donner une carte extraordinairement forte pour vous faire comprendre que vous êtes mis dans l'erreur. Alors, le vrai problème, c'est de se demander pourquoi, si sur les taux aussi longtemps, c'est ce que j'ai essayé de montrer, en dehors même. Même si on peut avoir des dépôts, des désaccords sur les politiques de banque centrale, il y a un fait que j'ai essayé de montrer, c'est que nous sommes tous fondés sur l'idée que l'information, à la fin, est pertinente et envoie des signaux pertinents. Ce que j'ai essayé de vous montrer, et je l'ai vécu pendant 4 ans, puisque pendant 4 ans, j'ai essayé de convaincre justement, les opérateurs, qui sont mes clients, les banques, les caisses de retraite et compétences, que ce qu'ils faisaient allait les foutre dans un mur total, et que ce que j'entendais régulièrement, c'était quand je disais que Goldman Sachs vous dit c'est des conneries, ben, c'est quand même pas un partisan de la thèse du complot, j'ai non, mais c'est un partisan de la thèse que sur la bougonnerie, on est prêt à vendre n'importe quoi, et en vous racontant n'importe quel trac, et ça serait à vous de faire attention à ce qu'on vous raconte. J'ai vu, j'essaie de vous le montrer, comment l'ensemble de la presse peut dire n'importe quoi sur le pétrole pendant des années. C'est quand même un vrai problème. On ne peut pas dire que c'est la faute de Greenspan si le monde entier s'est mis à spéculer sur le pétrole parce qu'il ne croyait que des conneries. Il y a quand même quelque chose qui nous interpelle en tant que libéraux. Ça prouve donc que l'information fonctionne mal. Mais attends, alors pourquoi? Mais il y a quand même des analyses. Pourquoi est-ce que d'un seul coup les Merrill-Lynch, Morgan Stanley, on va s'apercevoir que ça devient un peu cruel. Pourquoi les Merrill-Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs sont tous devenus mauvais? Ben vous remarquerez quelque chose, c'est qu'ils sont revenus cotés. Mais quand ils sont revenus cotés, je suis désolé, du temps où c'était des sociétés qui étaient d'abord des sociétés de brokerage avec responsabilité personnelle, les gars qui étaient d'abord, ils s'en foutaient que ça monte ou que ça baisse, puisqu'ils étaient intermédiaires. À partir du moment où ils sont devenus cotés et vendeurs de papiers financiers, c'est devenu des escrocs, il faut le dire. Je l'ai dit pendant des années à mes clients. Évidemment, comment voulez-vous que quand vous dites que Merrill Lynch et Goldman Sachs, c'est des escrocs, qu'on vous croit? N'empêche que deux ans après, évidemment, eux, ils étaient non seulement des escrocs, mais des cons, puisqu'ils ont eux-mêmes sauté. Mais c'est quand même... Voilà, quand même, il y a quand même un vrai problème à ce niveau-là.
Il y a
cinq prévents,
je
vais
dire, je partage entièrement votre jugement. Sur le fait, solution pour le statut des banques, c'est le statut de commandite. On peut raconter ce qu'on veut, limiter les bonus, faire des ratios, ça ne sert strictement à rien. La commandite, la maison Michelin l'a trouvée pendant très longtemps, ça permet de faire des sociétés de mandat, et mon entreprise qui est une société de commandite, effectivement, c'est forcément différent. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais je voudrais revenir sur ce que dit Simonneau sur le rôle des banques centrales. Là, il y a quelque chose d'intrigant dans les bulles, il y a la bulle des tulipes. Il n'y a pas de banque centrale. Mais il y a un excès de liquidité, pas un excès d'épargne, un excès de liquidité. Et la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'il y a simplement un excès d'épargne ou est-ce qu'il y a un excès de liquidité? Si on prend la thèse de Rueff qui est très démodée, ce que Rueff dit, c'est que le système de commerce que vous, d'accords internationaux, Banque de Chine et le reste, c'est un doublement de la masse monétaire. C'est un excès énorme de liquidité.
En Chine, ça a doublé.
Oui. Mais ce que dit Rueff, c'est que les securities à court terme détenues par les banques centrales jouent exactement le même rôle que la création monétaire de la Fed. Donc la question, est-ce que c'est simplement un excès d'épargne ou un excès de liquidité? Je pense que la thèse de l'excès de liquidité, si on se reporte à l'histoire des tulipes, a beaucoup de force.
Je voudrais donner une lumière sur ce que vous avez dit, que la totalité, je vous ai montré l'augmentation des réserves de la Banque centrale chinoise. Il faut savoir que la contrepartie a été créée en renminbi. Donc vous avez bien sur un seul élément, deux masses monétaires qui se créent. Oui. Puisque le chinois qui a apporté, d'où le gonflement inouï du prix des actifs en Chine. Et d'ailleurs, l'éclatement de la bulle aujourd'hui, il est ça. Parce que le chinois qui avait vendu des trucs, il a rapporté son dollar, et on lui a donné des renminbi. Donc il y a eu deux fois. Le dollar est parti financer des subprimes, et les renminbi financer des tours à Shanghai.
Le seul point délicat dans la démonstration de Rueff est de dire que les réserves de dollars placées sur le marché de New York, jusqu'à présent, pour l'essentiel à court terme, jouait exactement le même rôle que la création monétaire de la Banque centrale américaine. Et à un moment donné, il y a deux ans et trois ans, il y en avait trois fois plus que de création de monnaie par la Fed. Mais il le dit, il l'affirme, il a son autorité. J'ai cherché partout une démonstration.
Nos deux professeurs voulaient intervenir.
Oui, en fait, c'est pour répondre à Sophie de Menton, enfin répondre à une de ce que j'ai cru percevoir dans ses remarques sur les banques et ce dont elles sont accusées aujourd'hui, c'est-à-dire de constituer un capitalisme financier qui serait dissocié du capitalisme réel. Moi, je me rappelle qu'il y a 25 ans, il fallait 15 jours à 3 semaines pour qu'une firme transfère de l'argent de France aux États-Unis. Il était impossible de couvrir la moindre opération, quelle qu'elle soit. Bref, tout ce système entre guillemets, de capitalisme financier est en fait un instrument extraordinaire au service des entreprises qui leur permet de gérer le risque, ce qu'elles font depuis des années. Et les problèmes qui se sont posés uniquement sur les dérivés de crédit, c'est-à-dire sur une catégorie très particulière d'instruments financiers, et à cause de tout ce que nous avons dit sur les politiques en matière d'affordable housing aux États-Unis, etc., etc. Et en revanche, tout ce qui concerne, par exemple, le marché des changes, fonctionne, a fonctionné, et j'espère continuera à fonctionner, au bénéfice des entreprises. Et essayer de réglementer à l'excès ce soi-disant capitalisme financier, c'est-à-dire toute cette technique de produits dérivés, serait une catastrophe. Donc je crois qu'il faut faire extrêmement attention et ne pas, à cause de ce problème des dérivés de crédit qu'il faut bien analyser, condamner en fait un système qui marche remarquablement bien.
Alors, en vrai, oui, juste une remarque vis-à-vis des difficultés qui vont jouer entre tout à l'heure, mais d'ailleurs qui est pas en contradiction avec ce que disait Mario Cipino. Donc, si on regarde ça ici, la base monétaire mondiale, la base monétaire c'est la somme des réserves plus des espèces détenues, c'est vraiment l'indicateur en long terme d'évolution monétaire, est passé de 3 000 milliards en 2001 à 9 000 milliards en 2008. C'est divisé par 3. En plus de 30% de l'an, ce qui est énorme. Donc, vraiment, l'augmentation très forte des coûts qui explique pas mal de choses, je ne vais pas y revenir. Ensuite, sur ce qu'a dit Mafitivo sur sauver les banques. Oui, bien sûr, je suis d'accord, il faut sauver les banques. Le système bancaire, dis-moi. Il faut sauver chaque banque.
Oui.
Il faut sauver les banques, il ne faut pas sauver les banquiers non plus obligatoirement.
Non. Non, mais ne trompe pas, le problème est terminé. C'est fini, le problème est réglé.
Disons que ce n'est pas quand même tout. Je crois que les réactions des banques centrales, là, en gros, l'automne dernier, ont été correctes. Il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas laisser. Il y avait un risque systémique potentiel très important. Bon, j'aurais été ministre de l'économie, j'aurais fait quelque chose au président de la Banque centrale, quelque chose, aux États-Unis maintenant. Maintenant, je trouve qu'on va trop loin. Je ne suis pas en contradiction par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je trouve qu'on va beaucoup trop loin. Le quantitatif, je trouve que vraiment on est sur une mauvaise pente si dans quelque temps on ne renverse pas la vapeur. Alors, s'il faut changer le système de banque centrale, mon cher Simono, vous pensez au free banking, je suppose. Bon, oui, mais enfin, je ne pense pas à l'effet qu'on le fera maintenant. Peut-être que le free banking, il n'a pas des avantages, donc on peut en discuter. Perte de vue et d'autres à en discuter. Je crois que déjà, si on améliorait la politique monétaire avec les banques centrales, ça serait pas mal.
Notre ami de Vergne, passer le.
Comment pourrait-on imaginer, vous, dans les couloirs de la Réunion de Londres, influençant nos chefs de gouvernement décideurs pour sauver donc la planète financière et l'ensemble de l'économie mondiale. Est-ce qu'il y a des influences qui peuvent se jouer et quel type de décisions vont être prises? Alors, apparemment, ce qu'on entend dire correspond bien à l'analyse que vous faites. Il y a les sociétés de notation, on n'a pas parlé là des paradis fiscaux, mais voilà. Bon, il y a le remettre les. Bon, changer les comptes, changer les règles, les normes comptables. Tout ça, c'est des choses qui apparaissent comme devant être des décisions pouvant être prises.
Mais je ne vois pas du tout pourquoi elles seraient bonnes. Non, ce que je veux dire, ce n'est pas... Non, oui, les règles comptables, je suis d'accord. Ah, oui, mais pour le reste, si vous voulez, je ne vois pas comment, puisque même si je n'ai pas réussi, j'ai essayé de montrer que beaucoup de nos malheurs venaient en effet plutôt d'excès de réglementation déresponsabilisant. Donc, en effet, chaque fois, on doit plutôt chercher à trouver des règles responsabilisantes plutôt que déresponsabilisantes. La critique, ben en fait, pourquoi réformer les ordres de notation? On peut aussi les supprimer. Non, je veux dire. Ou ouvrir totalement la concurrence. Bien, on voit bien, on n'a pas pu rentrer dans tout le détail, c'est vrai, la critique qui a été faite par la BRI suffisamment en avant sur les agences de notation était très fondée. Elle a dit, et c'était des Suisses, ils l'ont dit en Suisse avec beaucoup de prudence, ils ont dit à partir du moment où 80% du chiffre d'affaires de ces dernières années dans ces agences de notation sont faites avec les émetteurs, on peut se demander si on ne pourrait pas avoir un soupçon sur la manière, sur la qualité des notations.
Bien sûr.
Bon, mais comme il n'y a pas de concurrence, n'importe comment, on s'en foutait. Non, je vais faire un coq à l'âne immédiat pour rebondir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'en effet, sur le problème de l'inflation, je crois qu'en fin de compte, c'est dans 3 ans qu'on le saura. Pourquoi ? Vous avez tout à fait raison. La base monétaire a monté beaucoup. Ça n'a pas une grande importance aujourd'hui, puisque la base monétaire, c'est grosso modo 15 à 20% de l'ensemble de la masse monétaire. Tant que le système de crédit, et c'est là où on a un désaccord, détruit de la monnaie, vous aurez le même scénario qui s'est passé au Japon entre 1991 et 2003, où la base monétaire a monté de manière inouïe, mais comme les banques détruisaient plus qu'une base monétaire par an, ça n'a eu aucun impact inflationniste, et on n'en a toujours pas. Par contre, mettons-nous en effet dans le scénario que vous avez dit tout à l'heure. Mettez-nous dans le système de taux des systèmes bancaires. Et que donc, dans 18 mois ou 20 mois, les banques ont recruté leurs fonds propres et donc leur capacité de prêter. Et à ce moment-là, là, je suis d'accord avec vous, sauf que ce n'est pas forcément l'inflation des prix courants qu'on aura. Vous risquez d'avoir de nouveau la bulle des investisseurs. Qu'est-ce qui va se passer? La logique voudrait qu'à ce moment-là, dès le lendemain, les banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE, montent très très fortement leurs taux. Mais ça n'aura pas lieu, pas à cause de la théorie de la double dip recession, qui est la grande trouille qui est liée, en fin de compte, justement, la fameuse histoire des années 30, ou la seconde récession de 37-38, qui fout une trouille noire aux gens. Donc, on a un risque majeur que... Vous voyez, moi je ne suis pas d'accord sur la critique de Jane Pan, mais on voit bien quand même que c'est vrai qu'il a tardé un peu pour monter les taux à cause de ça. Parce que normalement il aurait dû le faire dès le début de 2003, mais n'oubliez pas que pendant toute l'année 2003, on a vu comment on continuait à augmenter le taux de chômage. Donc c'est très difficile pour une banque centrale d'augmenter les taux alors que le taux de chômage augmente. Et c'est normal, parce que même quand l'affaire redémarre, vous continuez à avoir une augmentation du taux de chômage par une recherche de rentabilité. Donc vous avez un risque en effet majeur que les taux ne remontent pas suffisamment. Et à ce moment-là, vous avez une nouvelle. Vous avez un excès de masse monétaire. Est-on sûr que ça fait l'inflation? Non, parce que si vous n'avez pas de protectionnisme, il se repasse au renouvellement de ce qu'on a eu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous prenez l'exemple des États-Unis, ça sera un déficit de la balance commerciale qui se fera, puisque c'est les produits importés qui viendront faire concurrentiel. Par contre, ça vous fait une bulle d'actifs. C'est évident. Donc deux choses. Une, si vous avez un monde protectionniste, ça vous fera de l'inflation dans les prix courants. Si vous ne l'avez pas, ça vous refera une bulle d'actifs. Ma théorie, ma thèse personnelle, c'est que nous aurons une nouvelle bulle d'actifs dans 3 ans. Mais je ne sais pas comment faire pour l'empêcher. Alors à part ça, la question c'est, sauf en effet à revenir sur la théorie, que, après l'exemple que vous avez compris, on se met immédiatement, en effet, à appliquer la Taylor Rule, et que d'un seul coup, on se dise qu'on cherche à avoir une croissance que 3%, le PIB plus 2%, si on veut avoir le frottement à 2% d'inflation, on fait la Taylor Rule. Et en effet, qu'on change la méthode, en fait, on change le pouvoir discrétionnaire qu'a la Banque centrale, à ce moment-là, et que les taux courts soient fixés de manière automatique, selon le principe de le taux de croissance prospective plus l'inflation qu'on accepte, qui nous amènera environ à 4,5%.
Marc, il y a une question que je voudrais répondre.
Parce qu'on agit toujours tout de suite le fantôme du free banking. Mais avant d'arriver au free banking, et je réponds en même temps, monsieur, si j'étais dans les couloirs de la conférence de nous, qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement, en effet, tout ce que je viens de dire, chose horrible, parce que c'est le système. Mais il y a un moyen très simple de rendre plus raisonnable les banques centrales. C'est tout simplement de rétablir l'état noir. D'accord. Et la convertibilité hors des monnaies. Et ça, c'est extrêmement simple. Pas besoin de même.
C'est possible ?
Bien sûr.
Ben, c'est l'or. Vous allez pendant du prix ? Là, il s'agit de parler de prix.
Les pénuries réelles, ça n'existe pas. Attendez, il y a Georges qui nous
dit. Oui, alors justement, Renaud m'a enlevé la remarque de la bouche et je voudrais y insister, surtout que Marc de Citivo vient de faire une référence à la décennie 1930. La situation actuelle n'a strictement rien à voir avec la décennie 1930, pour la bonne raison que le système monétaire international était à l'époque un système d'étalons morts, c'est-à-dire de stabilisateurs automatiques. Les macroéconomistes aiment bien utiliser cette expression de stabilisateur automatique. Il n'en existe pas aujourd'hui. Les stabilisateurs automatiques de l'étalon or étaient justement le prix de l'or et les prix intérieurs. 5 ans après 1929, le dollar a été dévalué de 60%, ou si vous préférez, le prix de l'or a été augmenté de 60%.
en 1936, le franc allait être à son tour dévalué de 60%. Aujourd'hui, on a remplacé ces stabilisateurs automatiques par des expressions toutes faites qui n'ont strictement aucune espèce de réalité. Mon seul désaccord avec Marc de Sitivaux, c'est quand il utilise cette expression absurde de hasard moral, de risque moral. Non, le risque moral n'existe pas. Le hasard moral n'existe pas. C'est un cheval de bataille de tous ces économistes qui veulent renforcer l'intervention de l'État dans l'économie. À cet égard, il conviendrait une bonne fois pour toutes de distinguer la monnaie de la finance. Ce sont deux considérations qui n'ont strictement rien à voir, mais comme la Banque centrale cherche toujours à augmenter sa zone d'influence, elle fait en sorte de mélanger les deux. Et la meilleure façon de mélanger les deux, c'est justement de faire intervenir des considérations d'incertitude qui n'ont strictement rien à voir avec la monnaie. L'incertitude et la finance, effectivement, se marient bien. Incertitude, finance, assurance, ça se marie bien. Avec la monnaie, rien ne justifie de faire intervenir l'incertitude. Et l'absurdité du prêteur de dernier ressort qui nous échoit du 19e siècle est une absurdité. La monnaie, c'est fondamentalement un intermédiaire de réduction des coûts dans un monde de certitude. Le risque n'a strictement rien à voir avec cela. Le risque intervient quand l'État manipule, via la banque centrale, la monnaie. Et à ce moment-là, effectivement, on n'est plus dans la monnaie, on est dans la finance. De quoi parlons-nous? Est-ce qu'on parle monnaie ou est-ce qu'on parle finance? La politique monétaire, c'est la pire chose qui soit. C'est effectivement celle qui détruit le système occidental. Et c'est justement Rueff qui, des années et des années, depuis 1945, quand le Fonds monétaire international a été construit, qui a dit « mais il faut s'opposer à ce système de Bretton Woods qui va être la destruction du système occidental de liberté ». Étant entendu que la monnaie va de pair avec la liberté, je n'apprends rien à aucun d'entre vous ici. Autrement dit, du jour au lendemain, la situation aujourd'hui peut être résorbée si tout simplement, situation extrême, il y avait le free banking, la monnaie privée, à chacun via la monnaie électronique de convenir de la monnaie qu'il veut utiliser dans ses échanges de chaque jour, ou bien dans la mesure où cette considération va sembler peut-être trop compliquée à comprendre, rétablissons l'état noir. Ça peut se faire du jour au lendemain. Rueff, en 1971, disait pour résoudre la situation, il suffit de multiplier par 4 le prix de l'or, c'est-à-dire de le faire passer à l'époque de $40 à $160. Aujourd'hui, sur le marché, il tangente les $1000, mais il y a 2 mois, il était retombé à $700. Il suffit de fixer un prix officiel des monnaies en or, étant donné ce prix du marché. Dernière réflexion, et c'est le second petit reproche que je fais à Marc de Sitivaux, quand il parle de marché, nous sommes hayekiens, justement, faisant référence au processus de marché. Et ne fixons pas les projecteurs sur les marchés organisés. Quand vous critiquez, Marc, Goldman Sachs, c'est pas un marché organisé. C'est justement un ensemble de marchés de gré à gré. Et dans ce processus de marché,